Cette semaine, dans le service après-vente de la F1.
Kimi, Charles, Rémé, Eiki ou encore Felipe animent le marché des transferts.
Jenson Button a envisagé de partir en retraite.
Dino s'essaye aux anagrammes.
Pirelli n'aime pas la guerre des pneus.
Pur suspend ses activités.
Le WDRS vit déjà sa dernière saison.
Shinji est en mode de JO.
Et Nelson Montfort est parmi nous.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 où nous allons revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji.
Et Dino, quels sont nos chers collègues ce soir?
Alors ce soir, nous avons... Non, j'ai déjà fait cette présentation type box, donc je vais pas la refaire parce que c'est, même si ça serait justifié pendant les JO. Parce que rappelons-le, en ce moment c'est les JO.
Oui.
Voilà. On a d'ailleurs une chance de médaille avec la lutte.
Tout à fait.
On a peut-être déjà la médaille, Shinji, non?
Non, pas encore.
Non, non.
Le français voilà. Mène une manche à lutte.
Ah bravo. Et donc, nous allons, accueillir cette semaine pour le dernier mag avant les vacances. Ouais, les vacances! Ouais. Nous allons accueillir Gus Gus. Et puis, parce que c'est bientôt le Grand Prix de Belgique et que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, eh ben, c'est Ben.
Bonsoir.
Ça va, messieurs?
Ouais.
On sent que pour eux aussi, les vacances.
Ouais, et puis en plus, aujourd'hui, j'ai dû passer au nouveau profil Facebook. Ça me traumatise. C'est pas beau.
Seulement
c'est
maintenant?
Oui, mais parce que maintenant, je suis obligé.
Ah oui.
Il y a de la résistance.
Mais exactement. C'est...
Mais personne n'aime le nouveau. Personne n'aime la timeline Facebook. C'est fou.
Mais tout le monde dit ça, mais tout le monde a Facebook, quoi.
mais tu peux pas choisir.
Faut arrêter Facebook, alors.
Oui, mais tu sais, c'est compliqué.
Lançons le combat, je dis. Débutons la marche en avant, vers le progrès. En avenir sans Facebook.
Alors, messieurs, comme d'habitude, vous savez par quoi on commence?
Oh non, pas le chiffre.
Ah non, pas le chiffre. Même si aujourd'hui, j'aurais pu sortir le chiffre 1356, mais... Ça n'est pas...
C'est le dossard de Liu Xiang.
Ouais, exactement.
Ah.
Putain, je pars pas de points, fais chier.
Tu sais pourquoi, Dino?
Non, pourquoi?
Parce qu'il avait exactement le même dossard en 2008 et cette année.
Ah, manque de bol.
Ce qui est extrêmement peu probable, et ce qui est extrêmement cocasse vu ce qui lui est arrivé. Voilà.
Et pourtant, en Chine, apparemment, ils ont interprété ça comme un bon présage parce qu'il y a 1,3 milliard de personnes et qu'il y a 56 dialectes ou je sais plus quoi...
Mais c'est comme Félix Sanchez qui a fait le même temps lors de son titre hier au 400 mètres haies qu'il y a 8 ans lors de son premier titre au 400 haies. Le même temps, au dixième de seconde près.
Centième.
Centième.
Messieurs, voici l'heure du quiz. Alors on rappelle le score du quiz qui est de 18 à 11.
J'adore ce passage où je dis, messieurs, voici l'heure du quiz, alors qu'il n'y a pas de jingle.
Oui. Mais j'y ai pensé après. Et en même temps, ça donne un côté un peu Yu-Gi-Oh, tu sais, l'heure du duel, l'heure du quiz, voilà.
À toi de jouer.
Et oui. Et donc, nous, les animateurs, nous menons 18 à 11.
Soyons modestes, je dis.
Mais non, mais...
On va mener plus, tu vois.
Ben est là pour défendre la Belgique. Vous savez que la Belgique n'a que 3 médailles cette année. Oui, je vais peut-être sortir plein de trucs sur les jeux ce soir. Il n'y a pas grand-chose.
Oui, mais si on n'était pas parti au couloir 9 hier, on en aurait 4.
Et donc, Dino, cette semaine, c'est à qui de poser la question?
C'est au chroniqueur.
Tout à fait.
Donc, messieurs, nous attendons.
Nous écoutons.
Vas-y, chroniqueur.
Ok. Donc c'est Gus Gus qui a la question. On va en chier, j'ai dit.
Oh là là. Ah, on a la médaille de bronze en lutte.
Ouais. Donc rappelons quand même le principe, hein. Donc Gus Gus va nous poser une question à tous les trois. Si c'est Shinji et moi qui répondons, les animateurs marqueront 2 points.
Oui.
Et si c'est Ben qui répond, comme il est chroniqueur et voilà, pour éviter tout doute, toute suspicion, il marquera 1 point pour l'équipe des chroniqueurs. Ben visant aussi le score.
Oui.
À 18 à 13.
Non, à 12.
Non, 18 à 12.
Non, mais 13, c'est bien aussi.
Non, 12, c'est bien.
Pas.
Non, 13, je trouve ça bien.
On peut aussi mettre 20 à 11, ça sent bien.
Si.
Bref, cette semaine, c'est un chiffre pas si inutile que ça qui vous attend. Et le chiffre est 10.
C'est un nombre de personnes?
Non.
C'est une unité dans un palmarès?
Non. C'est pas 10 courses ou 10...
C'est 10 quand même victoires, un nombre de quelque chose.
Oui, c'est un nombre de quelque chose... C'est pas tangible, quoi.
C'est lié à la technique?
Non.
Oh, la vache.
Je ne suis pas monomaniaque, monsieur.
Non, mais je préfère écarter le sujet de prédilection, comme ça.
C'est le nombre de plaintes qui ont été déposées par les autres écuries envers Red Bull, depuis le début de la saison.
Peut-être, mais non.
Non, depuis hier matin.
Ils ont découvert que le bouton du KERS n'était pas réglementaire. Il était trop gros.
Ça concerne une équipe de F1 ?
Non. Enfin, il y a des équipes qui sont concernées.
Voilà, mais pas précisément une, d'accord.
Donc ça concerne pas un pilote non plus, du coup.
Bah, plus précisément si, quand même.
Ça concerne un pilote.
Pilote actuel ?
Oui.
Un pilote actuel qui aura fait plusieurs équipes.
Oui.
Schumacher.
Oui, ça concerne Schumacher en premier chef, ouais.
Donc pas seulement Schumacher.
Non, ça concerne pas seulement Schumacher, mais c'était un des acteurs principaux.
C'est un nombre d'abandons ?
Non.
C'est quelque chose qui concerne cette saison-ci uniquement ?
Non, ça n'a rien à voir avec 2012.
Ça n'a rien à voir avec 2012.
Rien à voir.
C'est quelque chose qui a eu lieu, dans lequel Schumacher a été impliqué.
Oui.
Et il y a eu 10.
Il y a 10 dans l'affaire, oui, et Schumacher a été impliqué. C'est quelque chose qui a eu lieu, effectivement.
Qui a eu lieu, d'accord. C'est à l'époque où il était chez Ferrari ?
Oui.
Je me demande si c'est pas lié à l'accident de Spa.
Quel accident de Spa ?
Bah, le gros carambolage, là, avec Coulthard, où ça se finit au point.
Ouais, en 98. Ah,
non. C'est pas rien à voir.
Mais ça n'a aucun rapport avec la Belgique, du coup.
Non, ça n'a pas de rapport avec la Belgique.
Mais ça n'a rien à voir avec un accident, ce genre de choses.
Non.
Ça concerne directement la carrière en tant que pilote de Michael Schumacher ?
Oui.
C'est un nombre qu'il a porté ou qu'il a défendu
Non.
Ça a été 10 d'un coup, c'est quelque chose qu'il a accumulé au point qu'il en ait 10.
Aujourd'hui, c'est 10.
Mais demain, ce sera combien ?
Donc ça n'a pas toujours été 10, ça pourrait être plus que 10, donc.
Ça sera plus que 10 dans le futur.
Ça sera ?
Oui.
C'est sûr. C'est lié à un record quelconque ?
Non.
C'est une place ?
Non, c'est pas une place.
Ça a un rapport avec le foot ?
Non, ça a un rapport avec la Formule 1.
C'est un rapport avec l'actu récent de la Formule 1 ?
Non.
Est-ce qu'il y a une unité derrière le chiffre 10 ?
Oui.
C'est genre 10 pantalons en cuir ? C'est le premier homme à avoir plus de 10 pantalons de différentes sortes en cuir dans sa prenderie.
Et à les avoir portés, sans avoir
honte. Voilà, chez Drucker. C'est pas ça ? Oh merde, on a perdu quelqu'un.
Bon, alors... attendez.
Bah oui.
Gus.
Ouais, on a la bonne réponse.
1, 2.
Ah.
3, 4.
Oh ben...
5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, voilà, effectivement, 10.
10.
Donc ça m'arrangerait juste pour le montage que tu dises, non, c'est pas ça en rigolant.
Non, c'est pas ça.
Merci, Gus.
Juste par précaution, c'est pas en rapport avec ses pantalons en cuir.
Non, ça n'a rien à voir.
Non, parce que ça serait quand même cocasse que ce soit la bonne réponse.
Non.
Oui, d'accord.
Donc c'est 10 quelque chose. Ça, comme par exemple 10 pantalons en cuir.
Non, il y a une unité derrière. Un pantalon, c'est pas une unité de mesure.
Ah, ça dépend.
Ça dépend la longueur du pantalon.
Oui, c'est vrai.
C'est 10 choses qu'il porte directement sur lui ?
C'est pas 10 choses.
C'est sur Internet ?
Non.
C'est 10 kilomètres ?
Non.
C'est une unité de distance ?
Non.
De poids ?
Non plus.
De puissance ?
Non.
10 chevaux ? d'argent ?
Non plus.
Unité de température ?
Non. Tu les as toutes faites sauf une, quoi.
Distance, poids, température.
Volume.
Vitesse, volume.
Non.
Pression.
Non plus.
Non, c'est un truc de plus simple que pression ou volume. Attends.
Intensité électrique.
Non plus. c'est tout con pourtant.
C'est le nombre de volts qui passent dans le cerveau de Michael Schumacher au moment où il se met sur la grille. 10 volts.
Non, là c'était 0 volts. C'est une panne de cerveau, ça.
Unité
non,
de
non,
temps.
Il fallait quelques volts pour arrêter son moteur, quand même.
Ouais. C'est une unité de temps.
Oui, c'est une unité de temps.
C'est le nombre de minutes qu'il lui a fallu pour se rendre compte qu'il était sur la mauvaise place de la grille de départ.
Non.
10 minutes?
Non.
Des secondes?
10 ans?
Oui, 10 ans.
Ah.
Alors. C'est un anniversaire?
Oui.
Donc il va fêter les 10 ans
de quelque chose.
Mais sa dernière victoire à Spa ?
Peut-être, mais c'est pas ce que je voulais dire.
La dernière victoire de Ferrari à Spa ?
Non plus. Alors, ça n'a pas à voir avec Spa, j'en ai dit tout à l'heure.
Attends, c'est 10 ans, mais ça concerne pas que lui en fait.
Bah oui et non quand même, c'était lui qui était la principale attraction.
Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans.
Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui même, mais ça les 10 ans, on a fêté les 10 ans depuis le dernier mag.
Ah oui.
C'était quand le dernier match déjà?
Il y a 3 semaines.
C'est son titre en 2002, non? Il a pas été sacré au Grand Prix après le Grand Prix? Non, c'était Grand Prix de France.
Eh bah si, c'était son titre en 2002.
Oh!
Je suis dit, bah, 11!
Oui. Parce qu'il a été effectivement titré au Grand Prix de France 2002 et ça fait 10 ans, le Grand Prix de France c'était le 21 juillet 2002.
Ah ouais, il égalait le record de...
Voilà, il est de Fangio et... alors, attends. Oui, il égalait le record de Fangio et donc j'ai trouvé que c'était l'occasion de revenir quand même sur un Grand Prix qui va rester dans l'histoire, même... Mais parce que
c'est la fois où Raikkonen a failli gagner là.
Voilà.
Tout ça parce qu'en France on ne sait pas nettoyer les plaques d'huile.
Et effectivement, c'est un Grand Prix qui a connu beaucoup d'actions et avant même le départ de la course, à commencer par Giancarlo Fisichella qui a connu un accident assez intense en essai et qui s'est vu recommander de ne pas courir par les médecins. Il est sorti à la sortie de la courbe d'Estoril, il a perdu son aileron avant en montant sur un vibreur, et il est allé tout droit dans les pneus, et donc les médecins de la FIA ont refusé qu'il court, et Jordan n'a pas pu mettre ses deux voitures sur la grille de départ, puisque ils n'ont pas pu récupérer Heinz Harald Frentzen pour faire la course. Ensuite, lors des qualifications... On a eu les deux Arrows qui ont fait exprès de se placer en dessous des 107%, pour d'un côté pour faire comme pour montrer qu'elles ont participé au Grand Prix et échappé à une amende de la FIA. Il faut savoir qu'à l'époque les Arrows étaient en grosse difficulté financière, et de l'autre pour éviter les coûts de fonctionnement des deux voitures pendant la course du dimanche, pour ce qui aura été leur avant-dernier Grand Prix avant le Grand Prix d'Allemagne qui suivait. Et pour en plus réduire davantage la grille, la Ferrari de Rubens Barrichello a pas voulu démarrer, ce qui fait que les mécaniciens ils l'ont laissé sur les criques et il y a eu que 18 voitures sur la grille de départ. Alors pendant la course, il y a eu, je crois, 5 pénalités pour avoir passé la ligne en sortie des stands. Et il y a eu 3 pilotes qui ont été vraiment touchés, donc Coulthard, Ralf Schumacher qui était bien placé à ce moment-là, et surtout Michael Schumacher qui était en tête et qui a donc dû effectuer un drive-through et revenir sur Raikkonen pour gagner la course. Et effectivement, à 7 tours de la fin, la Toyota d'Alan McNish casse le moteur entre Estoril et Adélaïde dans la ligne droite opposée, ce qui répand de l'huile sur laquelle Raikkonen va glisser à 3 tours plus tard, ce qui permet à Schumacher de passer et de remporter la course. Du coup, après 11 courses, Schumacher avait pris 96 points sur 110 possibles, une bonne grosse domination, bien comme il faut, parce que pendant cette année, en tout sur 2002, il aura fait 17 podiums en 17 courses, et il aura fait une seule fois 3e. Et donc après Manicourt, il a 62 points d'avance sur Montoya, et il peut plus être rejoint, et remporte donc son 5e titre de champion du monde. Et un petit clin d'œil au SAV, c'était la 153e victoire de Ferrari en tant que constructeur et motoriste.
Ah, je suis dit, on est trop fort, on a gagné encore.
Oui, on est encore... Ouf. Ils sont pas prêts de nous battre.
20 à 11.
Oui, mais c'est parce qu'on a appris récemment qu'il y avait une hiérarchie dans le SAV. C'était le présentateur, puis les chroniqueurs, donc on est des gros lèche-bottes, en fait.
Allez, sur cette magnifique victoire du Dino... Parce que je le dis, c'est une magnifique victoire de Dean.
Non, je partage. C'est un travail d'équipe. T'as posé des indices. T'as construit.
C'est l'impulsion électrique qui t'a.
Voilà. Et puis pour une magnifique victoire, il faut une magnifique question.
On a gagné sur les questions foireuses. Hein. Mais c'est vrai que ça l'était pas mal. Ouais. Enfin, c'est surtout un magnifique sujet.
Oui. Allez, passons au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors revenons sur le sondage de la dernière émission qui date déjà du 18 juillet. Ça remonte quand même.
C'est le bon vieux temps.
Vous avez été 46 à voter comme d'habitude, hein. Merci. Avec seulement 4 votes, Marussia exclut toute déférence dans l'accident de Maria de Villota n'a fait que 8,7%. À égalité, chacun avec 5 votes, on trouve la FIA vers une révision du système de pénalité et Ecclestone à 100% sérieux pour le Grand Prix de Londres, 10,87%. 10 votes, les reconductions, Spa pour 3 ans, Singapour pour 5 ans, 21,74%. Et enfin, 22 votes, Weber prolonge chez Red Bull, 47,83% quand même.
Et ça, ça passe pas, mais c'est n'importe quoi ce vote.
Qu'est-ce que je t'avais dit, Sidji? C'est Weber qui allait gagner. Hein? J'avais raison encore. J'ai tout le temps raison, Sidji.
Tout le temps.
Tout le temps, Sidji.
En plus, il a le triomphe modeste.
À peine.
Tout à fait.
Un petit mot sur la reconduction.
Non, mais Ben, il a envie de parler de Spa.
Oui.
Oui, pardon.
Non, mais ça, moi, j'ai pas grand chose à dire sur aucun des deux. D'abord, Spa, c'est moi qui ai écrit l'article, donc je pense que j'ai dit ce que j'ai, qu'il y avait à dire.
Ben, il veut parler que de Spa et de Kimi, c'est pour ça.
Et, Weber, bah, ça me paraît logique qu'il a trouvé,
Allez, dans ce cas, on va passer
au non, mais sincèrement, c'est, donc, il va pas sincèrement, c'est un régal de lire les articles de Ben, quoi. L'article d'aujourd'hui sur Weber, pas de voiture, il arrive quand même à te dire, dans un article, il y a pas de voiture, il y a personne à la voiture, qui voilà, la meilleure. il arrive quand même à te transformer cet article en une grosse campagne de promo pour le Grand Prix de Belgique.
c'est pas ma faute si un Spa-Francorchamps on s'est dépassé, contrairement au Hungaroring où on se fait chier, quoi.
Mais j'ai jamais dit le contraire.
Allez, messieurs, on va passer aux actus de ces 2-3 dernières semaines. Même si, je sais pas vous, ça, c'était pas folichon en nombre d'actus.
Voilà.
Quelle heure. Ça se voit que c'est l'été.
Ouais. C'est-à-dire que depuis dimanche soir, il se passe plus rien, donc
Il n'y a plus rien, voilà.
Bah déjà, quand il y a des semaines de Grand Prix, il n'y a pas forcément de grosses news. Donc, il y a déjà 2 semaines de Grand Prix.
Voilà.
Puis là, la dernière semaine,
c'est
les vacances, donc
Pourtant, au moment de faire mon top 5, j'étais vraiment jusqu'au dernier mag. Donc, j'essaie de prendre des actus, depuis le 18, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai quand même dû creuser pour les trouver.
Moi, j'ai pêché.
Ah bah là,
c'est pas ce qui venait.
On a fait du forage, hein.
Allez, on va commencer avec le moment transfert de l'émission, avec les différentes rumeurs. Alors, chez Ferrari, on a parlé beaucoup de Raikkonen, notamment pendant le week-end, même en Hongrie. On a parlé de Perez, qui presse un peu le pas pour aller chez Ferrari. Ricciardo, qui serait confiant. Senna, qui serait serein. Puis plein d'autres, parce que c'est normal, c'est l'été. Donc bah là, ça commence, entre guillemets, à s'agiter. C'est normal.
Ok. Bon bah
ça, ça démarre fort.
Non, moi, j'ai pas choisi, hein. Donc voilà, j'ai fait l'intro, vous démerdez maintenant.
Non, mais sur Raikkonen, moi c'est genre vraiment le prototype de la rumeur qu'on entend pendant l'été et qui vient de nulle part et qui c'est le truc farfelu, quoi. C'est pas possible
c'est
que Raikkonen aille chez
retourne
chez
Ferrari. Fantasme.
Mais même pas. Voilà, c'est parce qu'il y a fantasmé sur Raikkonen.
Mais c'est juste les Italiens dans la presse italienne qui disent ça. Voilà, c'est même plus de la rumeur. À un moment donné, c'est des films que les mecs se font. Alors Raikkonen, il a maintenu apparemment les illusions, disant oh non, faut jamais dire jamais.
Faut jamais dire jamais. C'est ce qu'il dit tout le temps. Faut jamais dire jamais. Vous allez aller chez Williams. Faut jamais dire jamais. Vous allez aller chez Ferrari. Faut jamais dire jamais.
Oui. Non mais voilà.
Vous savez jamais ce qui peut arriver.
Il paraît par contre qu'en off, il a dit jamais tant qu'il y aura mon tête de mollo. Donc.
Oui, mais c'est ça. Bah, voilà, il est quand même pas parti en très très bon terme avec l'écurie, même si déjà en début de saison, il avait dit qu'il avait absolument aucun problème vis-à-vis de Ferrari, ce qui s'était passé, s'était passé. Il a quand même dit qu'un jour, il expliquerait peut-être en détail ce qui s'est passé, mais que c'était pas le moment. Donc, vivement qu'il...
Il y a pas de rancœur, mais faut pas exagérer.
Qu'il l'ouvre. Ça pourrait être drôle. Et, voilà. Perez me paraît plus logique. Ça fait depuis le début de l'année que je dis que Perez va aller chez Ferrari.
Non, mais c'est quand même rare, c'est d'entendre un mec comme Perez qui pousse pour aller chez Ferrari. C'est généralement, c'est des mecs plus établis, c'est Ferrari qui va chercher des pilotes. Le mec devrait être content que Ferrari s'intéresse à lui. Non, Perez, c'est lui qui pousse pour aller chez Ferrari. C'est quand même très rare, un débutant qui a que 2 ans, pousse pour aller chez Ferrari, c'est quand même rare.
Parce que c'est vrai qu'en règle générale, avec Ferrari, ce qui se passe, c'est qu'ils ne disent rien, et quand ils sont approchés par Ferrari, et quand ils sont embauchés par Ferrari, c'est là qu'ils disent, ouais, j'ai toujours rêvé d'aller chez Ferrari.
Oui.
C'est toujours dans ce sens-là.
Perez, on sait très bien qu'il est sur les petits papiers de Ferrari à plus ou moins un court terme. Il fait partie de la Ferrari Driver Academy. Donc, ça paraît quasi pour logique qu'il finisse là un jour. Donc,
Non, c'est Rosberg.
Tiens, d'ailleurs, Alonso, c'était pareil quand il avait été embauché par Ferrari. Oui, j'ai toujours rêvé d'aller chez Ferrari.
Oui, mais
ce qui est donc bien la preuve, il a eu une enfance très compliquée puisque pendant son enfance, il a toujours rêvé d'aller chez Ferrari et chez McLaren.
Mais Rosberg, on en saura plus ça, aux alentours du 20, puisqu'il y a une réunion de, les,
oui.
de la direction de chez, chez Mercedes. Et déjà, on saura si Mercedes reste en F1 ou pas. Et donc, en
déjà,
fonction,
ça sera un premier indice.
En fonction, ah, parce oui. que Rosberg a un contrat, de toute façon.
C'est surtout Felipe Massa qui doit s'intéresser à ce qui se passe à Stuttgart le 20.
Mais, oui. De toute façon, même sans ça, j'ai envie de dire que les candidats ne manquent pas, quoi.
Mais et puis là, ils ont l'air des, enfin,
ils sont plus ou moins crédibles d'ailleurs.
Disons que voilà, apparemment chez Ferrari, c'est ça, ça cherche ouvertement. Hein,
en oui. Bah, de toute façon, Weber a dit qu'il avait été contacté, donc c'est clair qu'il cherche. Donc,
et même eux, enfin même Ferrari, ça, ils ont admis qu'il y avait eu des discussions. Voilà, enfin ouais. ils le cachent pas, donc ils cachent vraiment pas qu'ils cherchent quelqu'un. Ça faisait déjà 2 ans que Dominic Ali il traçait le profil du remplaçant éventuel de Massa. Donc
de
voilà,
c'est ça. Le championnat constructeur, si Ferrari est redescendu en quatrième, c'est ça.
Ouais.
C'est à cause de Massa.
Ah oui.
Parce que chez Red Bull, ils ont 2 pilotes qui sont bons. Chez McLaren, bah, les 2 pilotes se tiennent relativement. Et chez Lotus, ils se tiennent aussi. Donc, il n'y a que chez Ferrari.
Chez Ferrari, ils peuvent difficilement faire des reproches à Alonso cette année.
Bah oui, mais c'est ça. Si tu vois le classement des points, Massa en a à peine 30 et là, c'est Alonso. Donc, Alonso arrive à tout seul à 4e du championnat des constructeurs. Chapeau.
Pour les cas plus de milieu de peloton, Ricciardo, Senna, Bottas, forcément, l'avenir de Kobayashi.
Mais moi, Senna, je trouve qu'il fait pas une si mauvaise saison que ça. Hein. Il est plus qu'à 4 ou 5 points de Maldonado, qui depuis qu'il a gagné ne fait plus rien.
Il ne fait plus rien.
Il casse sa voiture plus que d'autres. Donc finalement, sans aller jusqu'à dire que Senna est une star, c'est ouais, pas le mauvais du plateau non plus. Mais quand on n'arrête pas de tous les week-ends dire ah ouais, il va se faire remplacer par Bottas, il va se faire remplacer par Bottas. Dans l'autre voiture, ils ont aussi un pilote qui certes apporte plus d'argent, mais au final, en termes de points. Il apporte pas beaucoup plus, hein.
Oui, mais le problème, il est là, c'est que derrière, t'as Bottas qui incarne l'avenir. Ça fait plusieurs années qu'il est suivi par Williams. C'est clairement dans une démarche de progression. Et il y a de très fortes chances quand même qu'il soit titularisé l'année prochaine. Il est déjà cette année, quand il fait 15 séances d'essai du vendredi matin, mais
il fait des simulations
exclusivement dans la voiture de Senna.
Mais en plus, il est soutenu par
quoi ? Parce que la place de Maldonado, elle est en l'état aujourd'hui, même si Maldonado fait un peu n'importe quoi en piste, elle est assurée par le fait qu'il rapporte 35 millions d'euros par an.
Mais oui. Alors que finalement, au strict plan comptable, à la limite, ils auraient presque plus intérêt à avoir duo Senna Bottas que Bottas Maldonado.
Après, il y a une question de calcul. Qu'est-ce qui vaut le plus, les points en plus que pourra rapporter Bottas ou le chèque de Maldonado?
Oui, mais le chèque de Maldonado, il sert aussi à réparer les casse-voitures.
Oui.
Mais je pense que voilà, c'est qu'à la fin de l'année, ils vont peut-être faire à un moment donné l'opération. Alors, je retiens 6, j'ajoute 9. Bon, alors, ce garçon, il nous ramène 35 millions, mais il nous en coûte 10 au total avec ce qu'il casse. Peut-être, Et en plus, il faut rajouter le coût des points qu'il perd. Parce que quand tu vois qu'il perd 45 points, bah, faut voir sur quoi ça change la place au classement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, voilà, je sais plus, ils sont 7e.
Ils sont bien classés que ça. Hein.
Sans les points qu'il a perdus, il serait potentiellement devant Sauber. Puisqu'ils sont à 30 et quelques points de Sauber, je crois. Et on estime, enfin, le Automoto World Sport estime à 45 points le nombre de points qu'a laissé filer Maldonado depuis le début de saison. Donc voilà, il serait devant Sauber, donc il serait en 6e place. Il y a sans doute une petite dizaine de millions de différences. Plus, effectivement, les frais de carbone et compagnie. Bon, ils vont peut-être se dire, finalement, il nous rapporte pas 35, mais plutôt 5 ou 6 millions, le Maldonado. Maintenant, est-ce que Williams, ils n'ont pas non plus intérêt, par exemple, l'année prochaine, à viser un pilote un peu plus en vue, genre Hamilton, par exemple.
Ouais, enfin.
Ouais, mais là,
j'ai bien dit, genre Hamilton.
Elle n'a pas encore le niveau pour attirer des pilotes de ce calibre.
Rosberg. Si Rosberg est libre.
Oui, c'est un retour.
Imaginez un retour de
Rosberg. Mais est-ce qu'il va retourner chez Williams alors qu'il a dit il n'y a pas si longtemps qu'il avait perdu un peu de temps en y restant trop longtemps?
Ouais, mais
tu vas me dire, si Mercedes sortir, il va plus avoir beaucoup d'options. Mais enfin, et encore, il pourrait aller chez Ferrari, chez Ferrari.
Il pourrait rester chez Mercedes aussi.
Non, mais si Mercedes s'en va, parce que si Mercedes reste, il va.
Si Mercedes s'en va, il peut avoir un repreneur à l'écurie quand même.
Ouais.
ça n'existe pas un contrat en Formule 1.
Oui, non, mais si normalement en l'état, il a si Mercedes reste en tant qu'écurie, il a un contrat, donc a priori.
Et après est-ce qu'il a pas non plus des clauses de réussite ou de résultats?
Ouais, c'est compagnie. Sûrement. Enfin,
Je crois bien que.
À mon avis, sa première victoire, ça aide aussi dans la clause. Hein. Oui. À l'avantage de l'écurie. Pas forcément dans le sien. Mais oui, il y a des clauses de toute façon, et puis un contrat, ça se rachète. Hein. Donc oui, c'est évident.
Et Ferrari a montré qu'ils n'étaient pas forcément avares.
Non, pas le faux, ouais.
C'est pour ça que Raikkonen, avant de balancer, faudra peut-être qu'ils disent bon, je vais pas trop balancer non plus, parce que ils m'ont quand même bien payé.
Ou qu'il aille voir Santander, qu'il dise si vous me donnez X millions, je dis rien.
Voilà.
il pourrait payer.
On passe à une autre actu ou vous voulez rajouter quelque chose sur les transferts?
On a passé. Oui, on n'a pas parlé de Ricciardo, mais en même temps, ce qui reste sur Toro Rosso, ça paraît logique.
Ouais, ça paraît logique.
Comme Vergne d'ailleurs, donc voilà.
Ce qui va être intéressant, c'est Marussia.
Ah.
Parce que vu que Pic se montre assez bon quand même et que Glock semble en difficulté.
Ouais, mais Pic il se montre bon, mais c'est pas pour ça qu'il va garder son volant. Hein.
Non,
quand
c'est
tu vois
ça,
la façon dont Marussia a traité ses deux précédents deuxièmes pilotes, c'est pas
mais
gagné.
D'Ambrosio et Glock, c'est vrai que... Excuse-moi, D'Ambrosio et Di Grassi, ils n'ont pas montré ce que Pic a montré quand même. Ils n'ont pas rivalisé avec Glock autant que Pic.
Non, mais enfin, D'Ambrosio n'a pas fait une mauvaise saison non plus. Hein. C'est sûr, à mi-saison, le bilan est à l'avantage de Pic, mais il avait quand même réalisé le meilleur résultat de l'écurie et il a, pour moi, fait jeu égal avec Glock.
Non mais je pense que la différence. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que D'Ambrosio a fait une belle saison et s'il a pas été retenu, c'est parce qu'il y a un mec qui est arrivé avec plus d'argent et que D'Ambrosio était pas non plus apparemment très sûr de pouvoir amener le budget nécessaire.
Bah, il a pas
là où derrière il y avait un budget nécessaire que proposait Pic, donc la décision était facile à faire. Maintenant, si c'est vrai que Pic l'année prochaine a encore un budget qu'il faut, il sera encore là. Maintenant, il a aussi montré des choses qui pourraient lui permettre de prétendre à d'autres baquets ailleurs.
Oui.
On peut pas en penser à Caterham, qui est pas forcément à ignorer, puisque on dit que Petrov pourrait pas rester chez Caterham.
Que Kovalainen
serait aussi donné sur le départ, choisir Sauber. Donc, il pourrait y avoir des baquets qui se libèrent chez Caterham. Donc, pourquoi pas échouer chez Caterham. Donc voilà. Après, c'est un peu la difficulté de Pic, c'est que soit il a de l'argent. Et derrière il peut concurrencer n'importe qui, plus ou moins. Soit il continue à être bon et donc quand il va arriver, il va pouvoir dans les négociations dire, écoutez, j'ai plus forcément besoin d'apporter le même budget puisque j'ai montré que j'étais bon. Donc j'apporte déjà une plus-value rien que par mon talent et mon pilotage. Donc j'ai pas forcément besoin de compenser avec beaucoup d'argent.
Et ça pourrait l'aider pour aller dans une autre écurie que Marussia, parce que chez Marussia, aussi bon soit-il, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans, enfin je souligne ça dans ma chronique de la semaine. Mais pour rester chez Marussia, il faudra aussi montrer les billets verts, quoi. Mmh. Il suffit pas d'être
bon. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui a pénalisé D'Ambrosio, c'est que D'Ambrosio, ouais, il est peut-être aussi arrivé à un moment donné où il a montré sur la piste qu'il n'était pas mauvais, qu'il ne méritait pas sa place que grâce au pognon, et que donc il arrive au moment des négociations de progression où il dit légitimement, écoutez, j'ai fait jeu égal avec Glock, donc voilà, pourquoi est-ce que moi j'aimerais avoir du budget et lui pas, moi je veux un salaire, je veux être un pilote de l'équipe et pas avoir un budget, et à ce moment-là, l'équipe, elle, ce qu'elle veut, c'est un pilote payant, et peut-être qu'il va y avoir le même problème pour Charles Pic, c'est que est-ce qu'il aura vraiment l'ambition l'année prochaine d'être encore un pilote payant alors qu'il a montré qu'il avait vraiment sa place en Formule 1, en tout cas à son échelle. Ça peut aussi être un problème pour lui. Maintenant, il faudra voir justement s'il n'y a pas d'autres places où il peut échouer.
Et pour D'Ambrosio, le problème aussi, c'est le fait qu'il n'a pas réussi à allonger, outre le fait qu'il pouvait légitimement espérer ne plus avoir à payer pour rouler. Le fait est qu'il devait encore le faire et qu'il a pas su allonger l'argent, contrairement au début 2011 où il a réussi à trouver le financement suffisant, quoi.
Mais pour Glock, faut quand même se rappeler qu'avant même le début de saison, il y avait des rumeurs comme quoi Glock, c'était pas sûr qu'il reste chez Marussia.
Mais c'est parce qu'en fait, le contrat de Glock est avec Virgin au départ.
Oui.
Et non avec Marussia directement. Et à l'inverse, là où un Pic pourrait, légitimement dire, les gars, pour l'année prochaine, on négocie le contrat, mais j'apporte plus, ou en tout cas moins d'argent, parce que mes performances justifient à elles seules qu'on me garde. Les performances de Glock ne justifient pas ses 3 millions par an, quoi. Ne justifient pas son salaire. Parce qu'il est loin de dominer Pic comme il a été loin de mettre à terre D'Ambrosio. C'était plus flatteur face à Di Grassi, mais...
Puis l'ambiance a pas l'air non plus d'être forcément au beau fixe apparemment entre les deux pilotes. Je crois que...
Mais je pense que Glock, ça commence à l'énerver aussi. Il sent bien que le vent tourne un peu et que ça fait quand même 2 ans que des rookies réussissent à le bousculer sur certains circuits, donc...
Mais c'est ça qui est pas compréhensible, c'est que quand tu vois que Glock, il a prolongé jusqu'en 2014, en début de saison, ou l'année, non, c'est l'année dernière.
Début ouais, d'année passé. Dernière! Prolongé. Tu te souviens,
2014,
ça, on avait survécu 3 ans, s'enfermer au Toyota 3 ans chez Virgin.
Donc le mec, en même temps, il se morfond, et ça se voit qu'il se morfond un peu, il se morfond, mais en même temps, il s'est un petit peu mis les menottes au poignet, emprisonné tout seul, quoi.
Oui, parce qu'il est pas Glock avait une certaine réputation, là, quand il avait fait des podiums, il s'était montré des choses assez sympathiques, chez Toyota, sans pour autant en faire un futur champion du monde potentiel. Il avait montré qu'il avait largement sa place et qu'il pouvait être un bon pilote dans un top team, quoi. Donc là, et qu'il y soit retrouvé un peu le bec dans l'eau après le retrait de Toyota, il a retrouvé un volant là où il y en avait, mais qui se lie avec cette équipe aussi longtemps.
Et on peut faire la comparaison avec un Kovalainen qui s'est retrouvé dans la même situation, débarqué chez McLaren, il arrive chez Caterham, mais Kovalainen, il est parti en disant je fais 3 ans, et là on voit bien cette année, il a pas prolongé au bout d'un an en disant voilà je prolonge à long terme, je crois qu'il a fait deux ans, il a prolongé pour cette année, et en se disant cette année on va voir si ça paye, et puis cette année on voit clairement qu'apparemment il est en négociation avec plusieurs équipes, on parle de Sauber, on parle de Ferrari, qu'il essaye de revenir vers l'avant, sauf que quand un pilote comme Glock se met au bout de sa première année à prolonger chez Marussia en 2014, pourquoi tu veux qu'il y ait un autre qui dise on va peut-être aller chercher Glock, il a l'air heureux, il a prolongé jusqu'en 2014.
Oui, c'est
il a l'air très... bien où il est, quoi.
Allez messieurs, changement de sujet. Et on va parler du double DRS, dont on a appris qu'il ferait partie de ces innovations éphémères, puisqu'il sera interdit l'an prochain. Ça vous montre quand même le niveau des actures.
Bon, en même temps, double DRS, il faudra voir ce que ça donne sur la Lotus, qui devrait l'utiliser à Spa, dans quelques semaines. Mais bon, sur la Mercedes, on peut pas dire que ça ait fait des exploits, quoi, que ce soit en course ou en qualification. À part en Chine, où ça les a apparemment aidés.
En Chine même pas, puisque Rosberg était premier, donc il a pas pu utiliser le DRS, donc le double DRS.
Non mais en qualification en tout cas.
Ah oui, en qualification.
Ce qui risque même d'être terrible, c'est que pour une fois, la copie risque d'être peut-être meilleure que l'original.
Mais déjà, la Lotus est meilleure que la Mercedes.
Oui.
Oui, mais... il faut voir ce que ça va donner concrètement. Pas pour le moment, on l'a vu, mais on sait pas exactement quels essais ils ont fait avec et compagnie. Donc, faudra vraiment juger quand on saura que c'est en essai libre 3 et en qualification. Alors, à Spa, apparemment, c'est le projet, mais c'est pas sûr non plus. Moi, je pense sincèrement que si les équipes avaient vraiment confiance dans le DRS, il y en a certaines, on entend par exemple McLaren, qui en aurait un, ils l'auraient testé avant, ils l'auraient sorti avant. Je pense que tout le monde savait plus ou moins que c'était un système qui était condamné à l'avance. D'ailleurs, je crois que c'est Sauber qui avait dit en début de saison, nous, on va pas forcément se pencher dessus, on a étudié la possibilité, mais on pense que ça va être interdit pour 2013. Ça demande beaucoup d'investissement, on préfère mettre notre argent. Sur d'autres choses à développer plutôt que nous concentrer sur ça qui rapporte un gain pas forcément évident.
De toute façon,
surtout le système de Mercedes en l'état, il est impossible à copier pour les autres écuries parce qu'il faut percer des trous dans le châssis.
Oui.
Donc le système de Lotus, on l'appelle double DRS, mais ça apparemment ça a rien à voir avec ce que fait Mercedes parce que ça se passe exclusivement à l'arrière. Mm-hmm.
Mais Mercedes, ça fait déjà l'an passé au Japon, on entendait parler de ce fameux système avec des trous dans la monoplace qui permettait de gagner quelques kilomètres heure en bout de ligne droite. Donc oui. Ça fait un certain temps qu'on en parle.
Sauf qu'à l'époque, c'était passif et c'était pas couplé au DRS.
Mais c'est ça l'idée géniale, quoi. Enfin, c'est à la fois l'idée géniale, mais en même temps, moi je suis un peu partagé parce que je trouve l'idée astucieuse et géniale du double DRS, même si c'est vrai que faut encore voir vraiment quel apport ça apporte. C'est certainement pas une révolution comme l'ont pu être les échappements soufflés, comme ont pu être
le DRS déjà à la base c'est un système qui marche pas tout le temps en course.
Voilà, non mais voilà, c'est
il faudrait voir ce que ça donne sur une
même en qualif, quoi. On n'a pas forcément vu. C'est-à-dire que sur la Mercedes, comme de toute façon la Mercedes, c'est pas une voiture c'est une voiture qui est déjà en difficulté, donc je pense que ça a surtout davantage aidé à gommer un peu les faiblesses de la Mercedes grâce à un meilleur compromis sur les appuis et compagnie, en compensant grâce au DRS sur les lignes droites et compagnie. Mais moi, j'aimerais voir ça sur une voiture qui est vraiment réussie, genre sur la Red Bull, genre sur la McLaren, genre sur, je vais pas dire la Ferrari, mais genre sur la Lotus. Bah, voir vraiment qu'est-ce que ça apporte quand la voiture, à la base, elle est bonne.
Pour le coup, pour la Lotus,
vraiment cette année que ça, le double DRS, ça...
Pour le coup, pour la Lotus, ça peut vraiment être intéressant, puisqu'on n'arrête pas de parler justement de ce déficit qu'ils ont en qualif, et on sait qu'a priori, c'est le moment où le système peut être plus efficace.
Et surtout, c'est
eux s'y intéressent, finalement, c'est peut-être normal que ça soit eux qui soient les plus intéressés.
C'est aussi pour ça qu'ils veulent le mettre à Spa et dans la logique à Monza qui se suivra juste la semaine suivante, parce que c'est des circuits rapides sur lesquels l'apport d'un tel dispositif peut être le plus important.
Mais concrètement, il fonctionne comment il fonctionnerait comment le double DRS
de Lotus?
De Lotus.
Ça reste deux gros tuyaux et c'est très moche.
Non, mais c'est pas encore tout à fait clair, mais je suis en train de creuser.
D'accord. Vous en saurez plus tard alors.
Oui.
Espérons qu'on le sache avant que ça soit interdit. Il y a plus que 9 courses hein, pour le double DRS. Donc, ouais. Allez.
Mais donc pour toi, ça serait vraiment, c'est alors que parce que le double DRS de Mercedes, c'est on prend de l'air, c'est-à-dire que quand le DRS s'ouvre, il y a de l'air qui rentre dans les conduits et qui ramène vers l'avant.
C'est ça.
Et là, toi, ça resterait isolé sur l'arrière.
Là, ça resterait isolé vers l'arrière et ce serait le même principe que. Attends. En fait, à partir d'une certaine vitesse, l'air, naturellement, l'air, il passe par la sortie d'air chaud. Le gros tuyau où l'air chaud s'écoule et à partir d'une certaine vitesse il s'écoulerait par le pylône de l'aileron, le mât central de l'aileron pour venir rééquilibrer un peu les pressions et faire les pressions d'air des deux côtés de l'aileron et faire gagner de la pénétration dans l'air.
D'accord.
De toute façon, on se doute bien que le pylône d'aileron il n'est pas arrivé par hasard.
Oui.
Non, alors tout le monde a essayé de s'en débarrasser comme pas possible. Hein.
Allez, on va passer à la troisième actu. Vous inquiétez pas, après, il y aura les grosses actus. C'est Button qui, dans un moment de confession, nous a appris qu'il avait songé à arrêter sa carrière cette saison.
Confession intime, by Jenson Button.
Avec Marion Jolès.
Puis bon, gros finalement, il se dit « Ah non, je vais continuer !» C'est fun quand même, la F1.
En même temps, on s'en doutait, enfin...
Bah après, on se doute bien qu'il est plutôt en fin de carrière, que a priori McLaren sera peut-être, je sais jamais, mais peut-être sa dernière écurie.
Hein. Oh, on a parlé de lui chez Ferrari quand même.
Oui.
De toute façon, chez Ferrari, pour faire simple, pour faire une liste simple, il faut faire la liste des pilotes qui n'ont pas été cités pour aller chez Ferrari l'année prochaine. C'est beaucoup plus rapide.
En fait, c'est ça qu'ils ont donné comme liste à Jean-Louis Moncé. C'est la liste des pilotes qui ne seront pas. Je
fais ouais, mais c'était écrit en italien, c'est pour ça qu'il a confondu. Mais non, moi dans cet article-là, au-delà du fait que bon, il a avoué que l'idée lui est traversée l'esprit, c'est tout ce qui suit derrière quand il explique ce que lui procure le fait de piloter une Formule 1. Et, ça change un peu des déclarations bateaux des pilotes lors des week-ends de Grand Prix.
Mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, et ça a aussi un écho, je trouve, sur le débat qui peut entourer l'avenir de Schumacher. C'est que ça contraste un peu avec les déclarations qu'on a pu lire de soit de Marc Weber, soit de Felipe Massa, qui disait « Moi, je veux rester, mais avec une voiture compétitive et compagnie ». On sent que Button, en fait, il a du mal à envisager tout simplement de quitter la F1. C'est-à-dire qu'il dit pas, il dit bien, je veux rester, je veux être champion du monde, je veux continuer à me battre, mais on sent quand même derrière que c'est surtout les sensations qui lui manqueront. C'est pas le fait de se battre aux avant-postes, mais plus les sensations de piloter une Formule 1 qui lui manqueront. Et ça amène un peu à ce qu'on peut penser de Schumacher. Soit c'est pourquoi Schumacher y reste ou resterait en 2013. Est-ce qu'il resterait pour être compétitif ou juste tout simplement parce par plaisir, quoi, par plaisir de sensations et voilà pour quelque chose, toucher quelque chose qu'il aime faire et qui le touche au trip, voilà, quelque chose qu'il adore faire. Et c'est ce que j'ai aimé, moi, c'est le côté vraiment charnel qu'il a avec la F1, pas seulement côté compétitif.
C'est clair que conduire des voitures comme ça, par exemple dans les rues de Monaco, ça doit être quelque chose de...
Oui, c'est grisant, hein.
D'assez... Alors, par contre, conduire une Formule 1 sur le circuit de Bahreïn...
ou à Abu Dhabi...
Même ouais. Sébastien Vettel sait faire.
Oui, c'est vrai. On passe à la quatrième actu dans ce cas.
Je sais pas, t'as peut-être quelque chose à dire, Shinji.
Non, moi, je...
Ah, je suis dit,
Shinji est déjà en vacances.
Oui.
Shinji, il s'est fait son petit conducteur, et il s'est dit, bon alors, je me tiens au conducteur, je ne m'engage sur rien. Je suis déjà dans les JO et dans les vacances.
Non, non. Je vous emmerde. Allez.
Mais on te comprend, Shinji.
Mais oui. C'est tellement bien de voir du kayak en ligne.
À cette heure-là?
Mais non, pas à cette heure-là.
Le mec, il fait noir. J'ai peur.
Allez, on va passer là aux grosses actus avec... Alors, vous voulez d'abord qu'on parle des pneus ou qu'on parle des moteurs?
Oh non, on s'en fout.
C'est pas possible parce que tu as cité les deux.
Oui, j'ai cité les deux, ouais. Je pense qu'ils sont en 1 et 2 en plus. Mais
là, vous voulez parler d'abord moteur ou d'abord pneu?
Moi, je suis obligé de dire moteur, parce que j'ai cité que le moteur. Allez, moteur.
Moteur? Très bien. On va parler de pur. Hein. Ça veut... Dino, tu te souviens ce que ça veut dire, pur?
Oh, propulsion universelle et récupération d'énergie.
Ça sert plus à rien, sans souvenir.
Alors, attends. Attends, chez J, je crois que l'avantage du montage, c'est voilà, c'est propulsion universelle et récupération d'énergie. C'est l'avantage du montage.
Ça, c'est un coup de bâtard, quand même.
Non, moi, je ne retiens que les choses intéressantes. Pur, on le verra jamais, donc.
Ça sert à rien. Ah, non, c'est pas ça.
Donc, pur qui suspend ses activités, hein. Parce qu'apparemment, il n'y a plus de sous, au moins temporairement.
Non, c'est pas qu'il n'y a plus de sous, c'est
qu'ils... C'est qu'ils arrivent pas.
C'est compliqué. C'est qu'apparemment, l'investisseur, il est américain, mais le fisc suisse veut que ce soit, qu'il y ait un relais européen. Ouais. Donc c'est apparemment des procédures qui sont assez compliquées. Donc ils ont dit que ça devrait être résolu normalement début août. Mais en même temps, dans une note envoyée aux employés, ils disent on suspend les activités à partir du 1er août.
Ouais,
on se dit voilà, pourquoi vous les suspendez? Parce que il y a des retards de paiement ou... Enfin voilà, c'est assez difficile de savoir si c'est lié seulement à un manque de financement ou si c'est lié juste à un problème de procédure et à un décalage à cause du fait qu'il faut que l'investisseur...
Et c'est plutôt cette contradiction qui laisse penser que ça sent le sapin, parce qu'ils apparemment en interne, ils n'ont pas l'air d'accord entre eux de ce qui va pas.
Oui. De toute façon, au niveau du financement pur, ça a toujours été un peu nébuleux. Hein. On n'a jamais très bien su d'où venait l'argent. Puis bon, j'ai envie de dire qu'un projet porté par Jack Pollock, c'est pas crédible. Quand la dernière fois qu'il a essayé de faire un truc en F1, c'était Barr. Donc...
Oui, c'est vrai que...
Mais
non,
monsieur,
ça, c'est
Barr,
vrai
que c'est très bizarre.
Je vous rappelle que ça fait une victoire en Grand Prix. Hein. Après, c'est devenu Honda, et après, c'est devenu Brawn. Alors, Poupon Camembert.
Et Mercedes.
J'étais un fan de Barr. Si j'ai oublié de mentionner Mercedes, c'est que j'avais mes raisons.
Le tabac, c'est tabou. On en viendra tout
de suite. Dis pas, t'es fan de Barr, t'étais juste fan de la première année à cause de leur livret.
Mais voilà. Mais c'est, mine de rien, tu vois, c'est le genre de petits détails qui font que tu aimes ou pas une équipe. Ça te marque. Écrire le... j'ai aimé cette équipe juste grâce à cette livrée. Ouais.
Écrire le quiz sur la voiture, ça les a pas aidés.
Non. C'est vrai. Et donc, tout de suite, bah, l'hypothèse, c'est que peut-être qu'en 2014, dans le meilleur des cas, enfin, il se dit donc qu'il pourrait y avoir que 3 motoristes, même si là encore on peut être hésitant, puisque les 3 motoristes c'est forcément Ferrari, Renault et Mercedes. Mais comme vous savez ce qui se passe avec Mercedes...
Oui, mais Mercedes penserait arrêter ses activités en tant qu'écurie, hein, pas forcément en tant que motoriste. Hein. Donc au niveau des moteurs, ça changerait pas grand-chose.
Pour reprendre des parts dans McLaren. En fait, on regrette.
Pour racheter les 40% qu'on vous a vendus.
Ah oui, on a oublié de vous dire, les 40% sont un peu plus chers maintenant.
Mais ceci dit, ce qu'on perdrait forcément, enfin, ne plus avoir Cosworth, c'est ce qu'on perdrait forcément en change.
Ce serait peut-être un mal pour les deux, pour HRT et pour Marussia. Hein.
C'est clair.
Mais après,
Caterham, comment ils sont super tristes de plus avoir de Cosworth.
Bah surtout chez William, parce que Caterham, ils sont mieux que les deux des écuries derrière, mais ils ont quand même encore un peu de mal à recoller. Ceci dit, Toro Rosso va les aider, hein, parce qu'ils reculent tout le temps, donc.
Donc là, ils peuvent plus dire que c'est la faute du moteur chez Caterham. Voilà, c'est bon. Mais notamment Williams, voilà.
Mais en même temps, j'ai quand même envie de dire que ce soit Cosworth ou que ce soit Pure, ils sont quand même pas aidés à la fois par les équipes, enfin par leurs concurrents et par la FIA. On voit quand même, ça fait des mois et des mois que Renault arrête pas de s'épancher dans la presse pour dire que Cosworth sera plus là et qu'il y aura que 3 motoristes.
Ouais,
enfin,
non,
là,
mais,
c'est pas nouveau.
Mais Renault, ils veulent sponsoriser 18 écuries. Oui, 18.
Voilà, donc ça...
18 parce qu'ils veulent sponsoriser plus qu'il y en a en réalité.
Mais ils veulent faire la formule Renault 1.0. Et en même temps, la FIA, faut quand même rappeler que le projet pur, il a aussi été lancé à l'initiative de la FIA qui voulait des moteurs, le retour de moteurs clients, mais de vrais moteurs clients, comme on a pu les connaître il y a 10-15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, la FIA, ils sont vraiment très silencieux autour de pur. On les entend jamais les soutenir, ou ne serait-ce même que contredire les constructeurs en place, notamment Renault, en disant, mais attention, on vous rappelle que dans le règlement, il faut avoir quatre motoristes différents. Vous n'avez qu'une dérogation et compagnie. Enfin, j'aimerais que la FIA se reprenne un petit peu en main et que derrière, bah oui, pur, ils ont l'air pas sérieux parce qu'ils sont aussi complètement abandonnés à eux-mêmes, j'ai l'impression. Bah, c'est, je trouve ça, c'est un peu l'habitude de la FIA, quoi.
C'est finalement la même histoire qu'avec les petites écuries.
Tout à fait.
Ils sont arrivés avec une promesse faite à l'époque, c'était Mosley, comme quoi tu changes le directeur, les présidents, ça changerait, la gestion est toujours pareil. Et ils gambergent en fond de gris parce que, bah, ils ont, à peine les 40 millions qui auraient dû être suffisants. Je me suis dit, ça me fait rire, 40 millions, mais voilà, ils gambergent et ils sont... Et ici, pur, bah, c'est fort pareil. On leur dit, oui, on vous soutient, on vous fait des promesses, et puis démerdez-vous. Alors que finalement, dans l'esprit, c'est pas plus mal d'avoir un constructeur indépendant, puisque les constructeurs vont et viennent un peu à leur gré, changent leur politique assez régulièrement.
Et puis ça fait partie aussi de l'histoire de la F1. Enfin, on se rappelle des moteurs Climax, on se rappelle des Mechachrome et compagnie, même si parfois c'était des reprises. Mais voilà, les motoristes ont quand même une histoire, et ça n'a pas toujours été une histoire de gros motoristes. Ça a aussi été une histoire de petits motoristes indépendants, plus ou moins indépendants, qui faisaient le boulot. Enfin, je crois que Shinji t'avais fait l'histoire de Cosworth.
Oui.
Cosworth n'a pas toujours été fort.
Oui, ça a quand même été très longtemps.
Mais même au départ, oui. Je vois pas pourquoi ils ont quitté à aider un constructeur indépendant. Je trouve que ça avait beaucoup plus de, à la limite, de classe et de au niveau de l'historique, de dire à Cosworth, bah les gars, on a besoin d'un constructeur indépendant comme vous l'êtes. Eh ben on vous donne les moyens on vous soutient vous, puisque eux sont déjà là.
Et puis même,
plus bon, Cosworth, au niveau historique, ça a une autre gueule que pure, quoi.
Vis-à-vis de certaines écuries aussi, ça leur permet aussi de se mettre volontairement en indépendant, parce que quand t'es sober et que t'as un moteur Ferrari, forcément, quand t'as les discussions très politiques qu'il peut y avoir en F1, souvent, quand t'es sober, tu suis l'avis de Ferrari. De même que bon, t'as la même chose avec Toro Rosso et forcément Red Bull.
Ah toi. Ouais.
Oui. Non.
Pas niveau moteur.
Non, pas niveau moteur, mais voilà.
J'ai cru que t'allais dire qu'il suivait l'avis de Ferrari.
Non, pas de Ferrari, mais ça permet aussi, de se démarquer vis-à-vis de l'équipe, notamment lors des discussions politiques, en se positionnant comme véritable indépendant. Ne pas avoir de dépendance par rapport à un gros, quoi.
C'est d'ailleurs pour ça que...
Regarde, même Force India avec Mercedes,
C'est pour ça qu'il semblerait en ce moment que Sauber, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Sauber ferait ouvertement la cour à Volkswagen pour essayer de les attirer en Formule 1 et de faire un partenariat avec eux. Parce que, voilà, ça leur permettrait, en étant associé à un gros constructeur, d'être indépendant en Formule 1. Puisque ça serait, entre guillemets, l'écurie officielle associée à Volkswagen et plus l'écurie partenaire de Ferrari qui est déjà en place. Ou, pareil pour Force India, qui serait partenaire de Mercedes qui est déjà en place. C'est toujours un peu compliqué d'être le partenaire d'un motoriste qui a déjà une écurie.
Oui.
C'est surtout aussi que j'ai l'impression que Monisha Kaltelborn a un peu plus, entre guillemets, d'ambition que ce que n'a Peter Sauber. Et qu'avec Ferrari, ils peuvent pas viser plus haut que ce qu'ils font actuellement.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi...
Ils se rendent compte qu'ils sont capables d'aller plus haut. Donc à partir du moment où ils passent ce cap...
Mais est-ce que Sauber a besoin d'aller plus haut? Je suis pas sûr.
C'est une écurie... Alors en plus, Sauber est une vraie écurie de course, c'est une vraie société qui ne fonctionne
pas. Ouais, bah oui.
La course.
C'est un peu comme Williams.
Comme Williams. Donc j'ai envie de dire, c'est normal. Ça devrait être normalement leur raison d'être.
Mais je pense que ça l'a toujours été plus ou moins. Oui. Enfin, quand on regarde la vente, quand il vend à BMW, c'est parce que il pense que c'est le meilleur avenir aussi pour son équipe que de filer les clés à un constructeur. Bon, il l'a appris à ses dépens. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on le voit avec le choix de Monisha Kaltenborn, peut-être qu'il se dit aujourd'hui, il faut peut-être recommencer, réenvisager à plus long terme de s'associer avec un constructeur, mais une association différente, plus l'exemple de ce que faisait Frank Williams avec BMW au début des années 2000, et puis vraiment donner une vraie structure à cette équipe Sauber, la détacher un petit peu de Peter Sommer pour en faire vraie entreprise avec à sa tête Pauline Shackleton-Bormes et compagnie, où lui ne serait que le garant des institutions.
Oui, la différence avec BMW, c'est que BMW avait racheté véritablement l'écurie, et qu'ici, avec Volkswagen, voilà, ce serait pas à l'heure du jour. Enfin, en tout cas, Peter Sauber n'a pas l'intention de revendre maintenant, une fois qu'il sera parti.
Volkswagen n'a pas du tout l'ambition de...
Non.
Enfin, il parle d'être motoriste, mais j'avais pas l'impression que Volkswagen n'ait jamais voulu venir en tant qu'écurie. Enfin, ils ont déjà du mal
c'est
à vouloir
bizarre,
venir en tant
que... On a prêté des choses, notamment au PDG de Volkswagen, parce que c'est vrai que Volkswagen, normalement, dans 2-3 ans, a pour ambition d'être le premier constructeur mondial. Et dans ce sens, c'est pour ça qu'ils reviennent en... Oui, j'y avais déjà été. Qu'ils reviennent en WRC, par exemple. Ou, par exemple, qu'il y a les questions de Porsche au Mans, et puis même de Audi. C'est que on prêtait au fameux Ferdinand Piëch, en fait, la volonté de dire, si on est numéro un mondial de l'automobile, on doit être dans toutes les disciplines. Et donc forcément, ça impliquerait un programme F1.
Mais c'est aussi pour ça que Volkswagen s'est impliqué dans la monoplace. Je sais plus quel championnat, je crois que c'est la Formule 3.
C'est des Formule 3, je crois, ouais.
Voilà, où il y a des Formule 3 Volkswagen. Voilà, c'est très récent, ça. Je crois que c'est la première fois que Volkswagen s'engage vraiment en monoplace sous son propre nom.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, le groupe Volkswagen, enfin, ils vont se relancer en WRC, mais... J'ai pas l'impression que ce soit un championnat qui est enfin si, avec une Volkswagen, ça fera 3 constructeurs, mais actuellement, c'est pas un championnat qui est...
Bah, disons qu'ils sont ambitieux, ils risquent de la sentir douloureuse l'an prochain, quand même, face au Ford et au Citroën, quoi.
Me fait baver, mais, et puis, ils sont au Mans, mais au Mans, ils ont plus rien à prouver, au Mans.
Ah non.
La seule année où Audi n'a pas gagné, où Audi n'était pas là, c'est parce qu'ils avaient engagé Bentley, mais
Oui, il y a Peugeot à gagner une fois aussi, hein.
Oui, il y a aussi Peugeot qui a gagné, mais sinon, sur les dernières années,
c'est pareil. Enfin, quand tu regardes
Volkswagen, que ce soit avec Audi ou avec Bentley au début des années 2000, je sais plus, 2001, peut-être, je crois.
Ah 2003. Ouais, mais c'était une
ils ont tout gagné.
Puis c'est pareil, quand tu regardes le WRC, on peut pas non plus dire que ce soit une vitrine de constructeurs. Qui sont les constructeurs engagés?
C'est Ford et Citroën.
Ah là, c'est pas non plus des mastodontes de constructeurs aujourd'hui, quoi. Enfin, Ford, c'est plus grand Ford d'il y a quelques années, et Citroën, bon bah c'est PSA, c'est pas non plus énorme.
Mini,
où s'engagent les grands constructeurs?
Ils ont un programme officiel, Mini,
c'est la formule, quoi.
Mais Mini, ils avaient l'intention d'avoir un programme assez sympathique cette année, et puis apparemment BMW leur a plus ou moins coupé les vivres.
Oui, avec ProDrive là.
Et ils se sont séparés de ProDrive.
Ouais.
Donc du coup ils roulent, ils vont même pas participer au Grand Prix, moi, au rallye de Grande-Bretagne. Et, franchement, je trouve ça dommage parce que la voiture marchait pas mal. Ça faisait concurrent.
La Sordo a fait de bons résultats l'an dernier.
Qui pouvait aller chercher, mais même en début de saison, tout début de saison, ils ont fait des trucs assez chouettes. Et c'était candidat pas forcément au titre, mais trouble fait dans le paysage du
pour
WRC.
Éventuellement à Sébastien Loeb.
Mais honnêtement, le rallye aujourd'hui,
Ah, il y a le je vais me faire les amis. Il y a le WTCC.
Arrête, même dans le WTCC,
oui, mais
alors,
Spar.
Il y a l'an prochain parce qu'il me semble
que je vois les Spar, mais il y a Lada qui revient, il y a Volvo qui vient
aussi.
Il y a Ford qui vient.
C'est sexy, hein.
Il y a Seat qui revient.
Oh.
Non, le WTCC.
C'est Chevrolet qui se barre, c'est bon, c'est pas une grande marque.
C'est voilà. Si vous voulez voir un championnat de tourisme, regardez le DTM, quoi. C'est... Les voitures ont plus de gueule, il y a plus de constructeurs.
Il y a plus de tout.
Mais après, il y a aussi une autre piste hein, pour Volkswagen, c'est l'Amérique du Nord. Soit par le biais de la NASCAR, je ne crois pas vraiment, mais plutôt par le biais de l'IndyCar. Avec, aujourd'hui, ils ont Honda et Chevrolet en motoriste, pourquoi pas, il m'a envisagé un motoriste Volkswagen en IndyCar dans les années à venir.
Ouais.
Et si on va passer, après les moteurs, on va passer aux pneus?
Ouais. Grand débat sur le site, ça, les pneus.
Ah, les pneus. Et donc Pirelli, qui ne veut pas d'une guerre des pneus.
Nous non plus.
Voilà. En rappelant notamment le cas d'Indianapolis, et que voilà, il ne voulait pas revoir ça.
Mais je crois que c'est toi, Ben, qui a donné l'argument exact.
Oui,
quoi.
Voilà.
À chaque fois, aujourd'hui, on se plaint des Pirelli. Quand avant Pirelli, on se plaignait des pneus en bois de Bridgestone. Et puis avant, on se plaignait du fait que la guerre entre les pneus. Aujourd'hui, tout le monde veut retrouver la guerre entre les pneus. Sauf qu'on oublie que la guerre entre les pneus, ça a fait, par exemple, que Ferrari, les équipes Bridgestone, parce que les Michelin étaient meilleurs, les équipes Bridgestone étaient forcément derrière les autres, même s'ils faisaient du bon travail sur la voiture, ils étaient forcément derrière les autres parce que les pneus fonctionnaient moins bien. Donc, il n'y a aucun système qui est idéal.
Sans parler du fait que Bridgestone faisait des pneus pour la Ferrari. C'est-à-dire que les autres équipes qui étaient en Bridgestone avaient des pneus qui n'étaient pas adaptés complètement à leur voiture.
Mais moi, ce que j'ai mis en avant, c'est l'argument, enfin, ce que j'ai essayé de démonter, mais de contrer un peu, c'est l'argument qui consiste à dire, oui, avec les Pirelli, les pneus ont trop d'importance.
C'était déjà
le cas. De toute façon, ça ne peut pas ne pas avoir d'importance. C'est le seul point de contact entre la voiture et la piste. Et quand on avait les Michelin et les Bridgestone, c'est ce que j'expliquais dans les commentaires de l'article. C'est que quand il faisait chaud ou qu'il pleuvait un petit peu sur la piste, c'était les Michelin qui dominaient. Et quand il faisait plus froid ou que la pluie s'intensifiait, c'était Bridgestone qui revenait. Voilà. Donc le pneu était véritablement
au centre. Les Michelin qui faisaient d'ailleurs un peu comme les, peut-être moins prononcés, mais un peu comme les Pirelli aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils montaient vite en performance, mais redescendaient plus vite en temps. Ça, je m'en rappelle aussi. À l'époque, c'était sans doute moins prononcé aussi. Ça, c'est vrai.
Donc non seulement les pneus avaient une influence, mais en plus, à la limite, les équipes n'y pouvaient parfois rien. Parce qu'elles étaient juste pas équipées du bon pneu. Ici, elles ont toutes le même, donc à elles de faire en sorte que la voiture fonctionne dans telle et telle condition. Le pneu, il fonctionne pareil pour toutes les voitures, à peu près, et aux équipes de.
Mais c'est ça, surtout, faire avec. C'est ça surtout qui est étonnant, c'est qu'on est à une époque où beaucoup de gens disent que à la F1 il y a trop de disparités, que ça serait bien d'aller vers une formule un peu plus monotype, et derrière, des fois, t'as les mêmes personnes qui critiquent les pneus en disant ah on voudrait revenir à la guerre des pneus. On a la chance d'avoir des pneus monotypes. C'est un facteur d'égalité entre chacun. Chacun a les mêmes pneus. Après, c'est chacun fait son travail. Et ce qui est, on voit aujourd'hui la conséquence, c'est grâce en partie aux pneus Pirelli qu'on voit des Sauber sur le podium, qu'on voit des Williams de retour et compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail que n'ont pas su faire les autres. Ils ont bien interprété les pneus. Ils ont compris ce qu'il fallait faire et ils ont bien travaillé. Là où les autres n'ont pas forcément mal travaillé, mais ils ont mal anticipé. Ils ont mal calculé.
Les différences ont tendance quand même avec le temps. On voit quand même qu'on est plus dans la même situation qu'en tout début de saison. On voit quand même qu'ils finissent par acquérir la connaissance de ces pneus.
C'est logique aussi. Et sur l'argument qui consiste à dire que les Pirelli sont des pneus, les pires pneus que la F1 ait connus, c'est ridicule aussi, dans le sens où on leur a demandé de faire ces pneus-là. Et que comme Paul Emberry l'a déjà répété plusieurs fois, si un jour on leur demande de faire des pneus en bois, ils peuvent le faire aussi, il n'y a pas de souci.
Et je crois que c'est quelqu'un.
Et à la limite, c'est presque plus facile de faire ces pneus-là que des pneus qui se dégradent d'une certaine façon.
Je crois que ça a été dit en commentaire. Certains disent oui, ils tiennent pas. Si, ils tiennent. Je veux dire, on n'a pas vu de pneus exploser. Franchement, les pneus quand ils reviennent, ils sont abîmés. Franchement, un pneu qui est mort. C'est des pneus où tu vois
la corde.
Voilà, où tu vois la corde. J'ai pas vu une seule fois ça avec Bridgestone.
Ils remettent pas en cause la sécurité du pilote. Ils risquent pas de partir en lambeau.
Non.
On a qui partent, mais c'est pas pour des problèmes d'usure ou quoi que ce soit.
Il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que si on fait la comparaison, il n'y a pas eu encore de problème de sécurité comme il y a pu avoir avec Michelin et Indianapolis en 2005.
Il n'y a pas eu. Avec les Pirelli, on ne parle plus, par exemple, plus beaucoup de graining. Le phénomène Grenier, franchement, depuis qu'on
Non, mais on parle beaucoup de marbles.
On parle beaucoup de marbles.
Oui.
Même du bullage sur les pneus, on en a pas vraiment.
C'est le seul petit bémol que je mettrais aux pneus Pirelli. En même temps, c'est une conséquence de leur usure. C'est que, plus la course évolue, plus il y a des marbles et plus c'est compliqué de sortir de la trajectoire. Et donc, ça vient de dépasser. C'est le seul petit, vraiment petit bémol que je mettrais. Mais en même temps, c'est compliqué de faire autrement. Le pneu suce, donc,
La problématique du Pirelli, mais qui n'est pas un problème, c'est juste qu'ils sont comme ça, c'est ils tiennent, mais ils ont une chute de performance.
Le vrai problème...
Une performance qui est forte, qui est très prononcée.
Le vrai défi qu'ont les écuries, c'est que, encore plus cette année, je crois, que par rapport à l'an passé, c'est que la fenêtre d'utilisation optimale de ces pneus est vraiment très très étroite. Et que, du coup, pour trouver la bonne, c'est vraiment... c'est un casse-tête. De nouveau, c'est pareil pour tout le monde. Donc,
Et ça remet, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que ça remet, et c'est ce qui est grave cette saison, même si je trouve que parfois sur la hiérarchie, on a des surprises et que on sait plus trop à quoi s'attendre, mais ça remet le travail des équipes vraiment en avant. C'est-à-dire que on n'est plus comme avant où l'équipe à l'arrivée, elle savait déjà ce qu'elle allait l'attendre. Aujourd'hui, bah effectivement, chaque écurie, elle sait que elle peut très bien se confronter au fait que les réglages qui sont envisagés en simulateur et compagnie sont pas bons en réalité, qu'il faudra revoir les choses et donc bah voilà, on retrouve vraiment là, ce qui fait aujourd'hui que cette saison est piquante, c'est que il faut préparer son week-end et que c'est vital de bien préparer son week-end et que depuis plusieurs courses, on voit des hiérarchies qui changent, mais pour des simples raisons de préparation. Voilà, c'est plus de temps que tu passes sur la piste, plus tu as la capacité de données, plus tu fais les bons choix stratégiques, plus tu utilises les bonnes, plus tu as les bons réflexes, mieux c'est. Et ça remet vraiment en valeur le travail de l'équipe en piste plutôt que le travail des ingénieurs et compagnie. Et c'est quand même assez, assez rassurant, quoi.
Oui, et puis ces petites surprises-là, elles font l'histoire aussi.
C'est bien qu'il y ait une part d'inconnu. C'est ce qui fait aussi le propre d'un sport. C'est que voilà, il y a tout ce qu'on prépare, tout ce qui est préparé, tout ce qui est calculé. Mais voilà, il y a toujours cette marge, on sait pas ce qui peut se passer. Et là, au moins, avec les Pirelli, cette part est peut-être un petit peu plus importante, mais c'est ce qui fait aussi le sel des courses.
Et puis, je pense aussi, mais ça, c'est plus général, je trouve, quand je lis souvent les commentaires et les débats, je trouve vraiment que les gens idéalisent soit le passé de la Formule 1, en imaginant que par le passé, la Formule 1 était comme ça. Sauf que la Formule 1, il n'y a pas une réalité de la Formule 1, c'est qu'il y a quasiment tous les 3-4 ans, vous avez de nouveaux cycles de Formule 1, vous avez des nouvelles donnes, vous avez des nouveaux visages qu'offre la Formule 1, et que on peut pas dire la Formule 1, ça a plusieurs visages, la Formule 1. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui attendent de la Formule 1 des choses qui existent déjà ailleurs. C'est-à-dire que quand j'entends au-delà des pneus, mais quand j'entends des gens dire ça serait bien que la voiture soit plus standard et compagnie, oui, c'est globalement c'est ce que fait l'IndyCar. Regardez l'IndyCar. Pourquoi est-ce que vous voulez que la Formule 1 devienne l'IndyCar? Regardez l'IndyCar. La Formule 1 va cultiver sa spécificité. L'IndyCar va cultiver sa propre spécificité. Il y a deux offres différentes. Regardez celle qui vous convient le mieux. Vous enfermez pas à regarder un sport qui vous convient pas, alors à côté il y a un autre sport dont la formule vous convient, quoi. Donc c'est toujours un peu ce qui me choque, quoi.
Enfin, oui, et puis enfin, moi je regardais il y a pas longtemps le Grand Prix de Hongrie 97, et ce qui m'a fait sourire, c'est que déjà à l'époque il y avait, c'était Bridgestone et Goodyear, et que Villeneuve était parti avec les tendres, Frentzen avec les durs, et que c'était déjà une question, un point clé de la course, quoi, se dire combien d'arrêts ils vont faire, et d'ailleurs on parlait de quasiment d'autant d'arrêts à l'époque que ce qu'on évoquait pour le Grand Prix cette année. Donc c'est des choses qui m'ont fait rire, alors que bon, 97, ça commence quand même à dater. Et ces surprises comme la Sauber deuxième en Malaisie, ou même la victoire de Williams qui reste une surprise aussi, c'est aussi ce genre de choses qui marque l'histoire. Tout comme la presque victoire de Hill en Hongrie en 97, c'est le genre de choses qui, tout ça aussi, entre autres, à cause d'une question de pneus, puisque lui avait des Bridgestone et ses adversaires des Goodyear. Donc.
Et ça relativise aussi la saison 2012, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on un peu à vif, la saison 2012 elle est extraordinaire et compagnie, mais globalement quand on regarde, il y a eu des saisons où on a eu des victoires surprises, des résultats un peu inattendus. Finalement cette saison-là, oui, elle est exceptionnelle parce que les chiffres sont là et que les écarts sont très serrés, qu'il y a une conjonction de faits qui font ça, mais globalement des surprises, on n'en a pas eu énormément. On a eu des podiums de Sauber, on a eu la victoire de Maldonado. Mais quand on regarde dans l'histoire de la Formule 1, mais des saisons avec des surprises de cette mesure-là, c'est pas 2 ou 3 qu'il y en a, mais c'est 10, 20.
Mais même la pole de Frentzen, non pas de Frentzen, de Fisichella à Spa en 2009. Voilà. C'est aussi une surprise. Il fait un bon résultat le lendemain en course. C'est voilà. Pas besoin de remonter très très loin pour avoir ce genre de.
Puis les découpages actuellement des courses n'a rien de surprenant non plus. Je veux dire, des courses en 2 arrêts, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Sauf qu'ils sont beaucoup plus courts maintenant qu'il y a 15 ans. Voilà.
Mais la vraie surprise cette année, c'est qu'une voiture qui marche très bien sur un circuit un week-end peut être à la rue, on se comprend, peut ne pas jouer les premiers rôles et même pas viser le podium la course d'après. Ça finalement la surprise, c'est que cette année les performances sont vraiment fluctuantes en fonction du circuit, en fonction des températures, en fonction de tout un tas de facteurs qui fait que bah la saison est un peu imprévisible, même si Alonso a pris un peu le large au championnat. Mais ça vaut encore rien dire.
Et je dirais même que c'est surtout ce qui fait le piment de cette saison, c'est pas les pneus, c'est pas le reste, c'est les écarts. Mmh. On a intrinsèquement des écarts qui sont très serrés entre les équipes et qui font qu'aujourd'hui, une petite amélioration peut permettre à une équipe de passer de la deuxième force à la première force du plateau en un grand prix, à une autre de reculer 2-3 places dans la hiérarchie en un grand prix, et puis que bah, la moindre petite imperfection dans la compréhension des pneus ou dans la compréhension de la voiture sur un week-end ou une sortie de piste lors d'un essai libre qui te prive d'une heure et demie d'essai, rien que ça peut te faire perdre 1 ou 2 dixièmes en performance le samedi et le dimanche, et bah ce 1 ou 2 dixièmes, ça te fait pas perdre une place comme avant, mais ça t'en fait perdre 3 ou 4. Donc je pense que vraiment s'il y a vraiment quelque chose à accuser cette saison pour dire cette saison c'est un peu n'importe quoi, c'est pas les pneus, mais c'est les écarts. Mais en même temps, ces écarts par réduits et ce spectacle, on l'a voulu aussi. Donc voilà, c'est aussi ce qui met le piment à cette chose. Il n'y a pas qu'un facteur, il y a plusieurs facteurs, et Pirelli n'est qu'un facteur parmi d'autres.
Gus, tu voulais rajouter quelque chose sur les pneus ?
Oula, non, ils en ont dit beaucoup.
S'ils rajoutent rien, c'est qu'on a pas dit de conneries.
Non,
ça va.
Non, puis je crois qu'il va y revenir. Donc,
oh, ouais.
Allez, dans ce cas, on va passer aux actus dont tout le monde se fout, qui sont pas super nombreuses cette semaine. C'est l'été, voilà.
Ah bah ça sent bon le... ça sent bon le sondage.
C'est possible. Alors, nous avons Ben qui nous a donné Button, pas encore prêt à aider Hamilton pour le championnat.
Alors qu'il devrait. Dans le sens où pour moi, il a plus, pour moi, 2012, il peut faire une croix dessus, donc,
Il a dit qu'il le ferait quand ce sera mathématiquement cuit.
Ouais, d'accord.
Ouais, mais ça risque quand même, même déjà, enfin, je vais pas dire que pour Hamilton, ça va être compliqué, puisque je pense que Raikkonen a encore ses chances. D'ailleurs, Button aussi, enfin, Hamilton aussi, il est à 47 points, c'est ça, d'Alonso. Donc, pour lui, c'est jouable, mais pour Button, il semble quand même loin, quoi. Donc, même si la McLaren a retrouvé un peu de sa superbe, ça va être compliqué, quoi.
Mais c'est là où quand on lit ses déclarations, je crois que dans la même interview, il dit à la fois qu'il l'aidera pas tant que ça sera pas mathématiquement fait, mais en même temps on dit qu'il fera tout pour aider l'équipe. Donc voilà.
Mais je pense que c'est un sportif quoi, sportif, il est fair play quoi.
Oui, voilà, je pense que ça se fera pas outrageusement. C'est sûr que c'est pas le mec qui va, c'est pas Massa quoi. C'est pas le mec qui va laisser une victoire. S'il est devant pour une victoire, il le fera. Maintenant, s'il voit que Hamilton il est plus fort, c'est pas du tout le mec et ça a jamais été non plus le mec qui va faire obstruction. Voilà, il ira plutôt l'aider comme Hamilton par exemple a un peu aidé en Allemagne quoi. Donc, je pense que c'est plus dans cette ambiance là que ça se fait. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin à un moment donné que chez McLaren il y ait une réunion au sommet. Bon alors Jenson, maintenant.
Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça marche bien entre Button et Hamilton, c'est que Button est vraiment pas est pas du tout politique, il est pas à chercher la petite bête et que voilà si il sait que pour le bien de l'équipe il faut qu'il aide Hamilton, il le fera.
Ouais. Et
ce qui serait peut-être moins évident dans le sens inverse.
Ah bah, c'est certain. Mais c'est en même temps, c'est aussi ça renvoie à la vision de la F1 qu'il a quand il dit qu'il a failli renoncer à la F1 quoi. C'est qu'est-ce qui prime pour lui, c'est avant tout les sensations, c'est le plaisir de la conduite d'une Formule 1. Et donc voilà, il aime la compétition. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avoir un environnement paisible et calme autour de lui. Et il ira pas non plus s'il sent qu'il faut qu'il aide l'équipe et qu'il aide Lewis. Bah, il ira aider Lewis. Mais je pense que c'est plutôt une décision qui viendra de lui plutôt qu'une décision qui lui sera imposée. Il va choisir son moment.
Sinon, autre actu qui concerne là encore McLaren, mais là c'est Hamilton qui aimerait revoir Kovalainen aux avant-postes.
Ouais, je l'ai oublié celle-là. Je l'ai même pas mis, mince. C'est qui a mis ça?
C'est Ben.
C'est moi.
Bravo Ben.
Bah, tu remarques que c'est pas si con parce que ça permettait de parler de Kovalainen dans les transferts et qu'on en a quand même parlé, donc.
Oui. Ouais. Voilà.
Voilà.
Parce qu'il est souvent cité et Hamilton n'est pas le seul à avoir dit, je crois que c'est Martin Brundle qui a dit qu'il pilotait comme une star et qu'il mériterait d'avoir une voiture de star. Donc.
Ah, il vaut mieux qu'une.
Dans les grandes ligues, hein, mais. C'est vrai qu'il
y a. Tout à fait. Ça prouve totalement Brundle.
C'est un après, peu faut... finalement comme Pic, il est dans une écurie bon qui est meilleure que Marussia, mais dans laquelle il peut pas forcément briller, mais il n'empêche qu'il fait quand même apparemment forte impression et
j'ai même envie de dire c'est pire que Pic, parce que Pic encore il peut se battre, Il y a les HRT qui sont pas loin. Ouais, ouais. Son coéquipier, ouais. Et compagnie. Kovalainen, il est régulièrement devant son coéquipier depuis 3 ans, même devant Petrov, même si Petrov le bouscule un petit peu plus. Ouais. Devant, il a pas trop de monde. Enfin, voilà, généralement, très souvent, après les courses, il dit, bah, j'ai connu encore une course tranquille. Bah oui, par rapport à son
oui, bah oui, voilà.
C'est sûr, t'as pas été emmerdé, ce week-end.
D'ailleurs, bah, même lui dit, qu'il, enfin, peut-être pas cette année, mais l'an passé, qu'il n'a jamais, ou pendant l'intersaison, qu'il n'avait jamais été en aussi bon niveau. Donc, à la limite, pour lui, c'est, il faudrait pas qu'il s'éternise chez Caterham dans une petite écurie. Il faut qu'il retrouve une écurie, d'un meilleur niveau, plus ou moins rapidement, parce que sinon, il va finir par s'encrouter, comme certains pilotes l'ont fait. Par exemple, Nick Heidfeld. Même Glock, finalement. C'est Marussia, il est en train de s'enterrer, là.
Après, il faut peut-être relativiser un poil les déclarations d'Hamilton, qui parle d'un pilote finlandais à une télévision finlandaise, donc ce serait un peu mauvais genre pour lui de dire « Oui, je pense que Kovalainen est un mauvais pilote. »
Oui, mais il y a une conjonction de déclarations. À qui a parlé Brundle?
Je peux pas lui parler à un média anglais, je crois, non? Il me semble. Je suis consultant pour... Mais bon... Maintenant, je dis pas que Kovalainen sera futur champion du monde, hein, mais à mon avis, il vaut mieux que ce qu'il a montré chez McLaren, je pense.
Tout à fait. Et pour moi, il a déjà montré beaucoup de choses. Non, mais ça, non, moi, je le défends. Je défends son passage chez McLaren. Faut se rappeler que derrière, quand il a quitté McLaren, il a eu des déclarations où il a clairement fait comprendre que chez McLaren, surtout la deuxième saison, il y avait un numéro 1 et il y avait clairement un numéro 2, qu'il n'y avait pas le choix prioritaire et compagnie sur les stratégies, sur les décisions techniques et compagnie. Voilà, et je pense que... Il reviendra. En même temps, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a pris goût chez Caterham à être un peu le leader d'une équipe. Donc je suis pas sûr, je vois peut-être mieux chez Sauber, mieux s'exprimer et mieux poursuivre sur sa lancée chez Sauber,
chez Ferrari. Par exemple,
que d'aller chez Ferrari où il retrouverait un rôle de numéro 2. Il aurait une meilleure voiture, mais il serait dans un rôle de numéro 2 qui lui conviendrait peut-être pas, alors que là, voilà, chez Caterham, bah, c'est le leader, il est dans un côté un peu famille, un peu cocon, et voilà, il est dans une position plutôt favorable. Donc, moi, je préférais le voir chez Ferrari de cœur, mais pour Kovalainen, qui est un pilote que j'adore, je préférais le voir chez Sauber, où je pense qu'il s'exprimerait beaucoup mieux.
Ouais. C'est un pilote très sympathique en plus. Enfin, moi, je l'ai interviewé à Barcelone, il est... J'avais interviewé Trulli l'année d'avant. Bon, Trulli, il savait bien qu'il serait plus là l'année prochaine, d'ailleurs. Mais donc, il avait strictement rien à foutre que Kovalainen. J'ai passé très sincèrement un bon moment à lui poser mes petites questions, mes modestes questions. Mais c'est aussi suite à cette déclaration sur McLaren qu'on s'est un peu fait du mouron concernant l'arrivée de Button. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre chez McLaren?
Oui.
C'est clairement chez la maison d'Hamilton. On sait qu'Hamilton est numéro 1, c'est qu'est-ce qu'il va foutre là? Alors que on voit aujourd'hui que Button a réussi à faire sa place et que l'an passé, à la limite, le numéro 1, c'était presque lui. C'était celui qui était soutenu par l'écurie.
Mais le statut n'était pas le même.
Mais oui, il arrivait en champion du monde, c'est vrai, mais n'empêche que c'était quand même pas forcément gagné d'arriver chez McLaren. C'était quand même un défi quand même de se lancer, de se dire bah je vais aller chez McLaren, là où Hamilton est nourri biberon par McLaren depuis qu'il est petit, quoi. Donc.
Bah ça c'est.
Sinon, moi j'avais cité la FOM qui lance l'appel d'offres pour la diffusion de la F1 en France. Bon, y a pas eu de nouvelles. Hein.
C'est quoi là? C'était fin de mois.
Oui.
Bah non, on n'aura pas les infos fin du mois, mais l'appel d'offres est clôturé fin du mois.
Il est clôturé. Oh,
l'audience
de F1 le dernier.
Pardon?
Il est clôturé à la fin de ce mois.
Apparemment, l'appel d'offres, les chaînes ont jusqu'à la fin du mois
pour répondre.
Pour répondre.
Ah oui, mais le choix sera plus tard.
Ah oui,
ça sera après. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, on ne saura pas qui.
Ah, ça veut dire qu'on saura au mois de septembre.
Mais normalement, fin du mois.
On saura peut-être qui a fait des offres, par contre.
On saura qui a fait des offres.
Ça, oui.
De toute façon, généralement, c'est comme ça. On saura qui a fait des offres et après, on saura qui les a gagnées.
Et vu les audiences des derniers Grands Prix sur TF1, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la chaîne.
En même temps, c'est les vacances, les gens sont à la plage.
C'est les vacances, c'est beau.
Allemagne, il a fait beau.
La dernière fois, en plus, il y avait le final de France.
Oui, puis en Allemagne, il a fait beau ce week-end-là. Pour une fois qu'il faisait beau.
On profitait.
Ouais, mais de toute façon, c'est sûr que l'été, ça marche moins bien. On le sent même sur le site que les audiences
sont un peu.
mais quand bien même.
Du coup, nous, on se relâche un peu.
Mais ici, en août, c'est encore pire parce que voilà, les gens savent que la F1 est en vacances, donc.
Oui.
Voilà, il fait en vacances, puis même nous, on le sait aussi en tant que rédacteur, enfin, on sait qu'il n'y a rien, voilà, c'est un peu la période où il n'y a pas grand chose à dire, c'est comme un peu la semaine avant.
Et puis, en plus, vous, les Français, vous partez plus facilement en vacances en août qu'en juillet.
Oui.
Donc, ça fait encore plus de gens en vacances.
Non, et puis c'est un peu comme Montréal, quoi. On sait que les 15 jours avant Montréal, on sait qu'il n'y a pas d'annonce parce que il y a des défis logistiques et compagnie, qu'il y a des décalages horaires, donc il n'y a pas forcément de disponibilité ou de créneau vraiment pour faire des annonces. Là, il y a les fermetures des usines, il y a voilà, si vraiment il y a des annonces, ce sera sur la fin du mois d'août. Voilà, c'est le mois d'août, il est animé quand Massa a un accident et qu'on parle du retour de Schumacher en 2009. Sinon, le mois d'août, il est très peu animé parce que voilà, il y a pas grand-chose.
Mais finalement, je trouve que c'est pas forcément pour ça qu'on a les infos les moins intéressantes, parce qu'on a Button qui parle de son plaisir de piloter une Formule 1. J'ai lu un article sur Autosport, sur Weber qui parle de l'empreinte qu'il veut laisser dans l'histoire de la discipline. C'est des déclarations que finalement, on a l'impression qu'on n'aurait pas en temps normal de...
Il y a aussi Hamilton qui parle de Mohamed Ali par exemple. Enfin voilà, c'est ouais. C'est aussi pour nous aussi l'occasion de prendre justement des articles aussi parfois qui sont qu'on n'a pas forcément le temps de traiter parce qu'ils sont parfois un peu moins prioritaires ou moins liés à une info importante. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion parfois de traiter des sujets un peu plus décalés, un peu plus librement.
Puis il y a un peu un cap aussi au niveau des actus, c'est-à-dire que là, à partir vraiment de la rentrée, la plupart des actus,
transfert.
Voilà, ça va être transfert et 2013. Voilà, c'est
ouais.
Mais au déjà, niveau des news, quasiment c'est l'année presque est terminée.
2013, ça a déjà commencé un peu puisque aujourd'hui
ça a déjà commencé. Oui.
Il y a Force India qui annonce, c'est assez surprenant d'ailleurs, qu'ils vont arrêter le développement de leur voiture.
Et d'ailleurs, c'est une actu qu'a cité Dino.
C'est pas si surprenant que ça en fait.
Mais c'est surprenant dans le sens où Force India, d'habitude, ils ont tendance à commencer à monter crescendo tout au long de la saison, à commencer plus ou moins moyen, bien que cette année ils ont un bon début de saison. C'est parce que pas de bol, d'autres font beaucoup mieux.
Temps,
et ils ont tendance à bien finir. Donc
comme
c'est pour ça, dans ce sens-là.
Comme l'explique l'article de Dino, ils sont dans une position où finalement, ils ont plus trop grand chose à craindre.
Et puis arrêter le développement, concentrer le développement sur 2013, vu qu'il n'y a pas non plus d'énormes changements pour 2013, il y a peut-être des trouvailles qu'ils vont faire pour 2013 qui porteront leurs fruits pour 2012. Et puis il suffit de faire un bon week-end, c'est-à-dire qu'ils sont à 34 points de Sauber, ils visent la 6e place, ils sont à 34 points de Sauber, ça peut paraître loin. Mais il suffit que Sauber ait quelques grands prix moyens et que eux, soient très réguliers sur la fin de saison en prenant régulièrement 4, 5, 6 points, ça va peut-être pouvoir passer. Ou alors, il suffit qu'ils fassent comme Sauber il y a pas longtemps, qu'ils prennent 20 points d'un coup dans un week-end et ils sont plus qu'à 15 points de Sauber. Donc,
ils en ont pris 16 à Valence, je crois.
Oui, voilà. Donc, il suffit de faire un bon week-end ou 2-3 bons week-ends d'ici la fin de saison et un peu plus que Sauber, marquer un peu plus de points régulièrement pour que ça passe. Je pense que c'est pas vraiment, ils arrêtent puisque globalement, il y a pas de grosses différences sur 2013 puisque même le museau à étage, ça devait être interdit puis en fait, ça va plus être obligatoire.
En même temps, la solution,
les équipes pourront changer si elles le souhaitent.
À 2000, de toute façon, oui, techniquement, 2013, c'est 2012, mais avec quelques trucs en moins.
Oui, et des trucs que, de toute façon, Force India, ils ont pas forcément travaillé, quoi.
Oui.
Enfin,
oui.
DRS,
non,
mais ils ont pas travaillé.
Non, la révolution, c'est en 2014.
Ouais.
Raison de plus de ne rien changer en 2013, justement. Que ça soit stable en 2013, pour vraiment s'occuper de 2014.
Oh, oui, mais en même temps, avec la FIA, on n'aurait pas été au bout de surprise près, hein.
Oui.
C'est pour ça que les équipes ont fait le pressing aussi pour que l'histoire des museaux à étage ce soit pas une interdiction pour 2013 mais plutôt moi j'adore, c'est d'abord on interdit et derrière la FIA dit en fait non ça sera pas interdit, les équipes auront le choix.
Ouais.
Oui, en grosso modo rien va changer quoi.
Donc, voilà.
Ils n'avaient pas proposé de mettre une espèce de coque c'est débile, c'est
oui. Dernière actu, cette fois-ci c'est de Gus Gus. C'est un très beau titre, Charles Pic, sortir de l'ombre.
Ouais, mais c'est pas une actu, c'est une chronique. Mais ça reste un très bon choix, c'est fini.
Ouais, mais on en a parlé un peu de Charles Pic. Donc.
Ouais. Non, moi, franchement, c'est vrai que d'ailleurs, je pense que je l'avais même mis en commentaire sur le site à l'époque, quand il a été annoncé à la place de D'Ambrosio. En tant que petit Belge, je l'ai eu assez mauvaise. Surtout que, sincèrement, les raisons étaient avant tout économiques, même si Pic n'avait pas démérité en GP2. Et j'avais dit que je serais le premier à le descendre s'il décevait, mais que je serais aussi le premier à reconnaître qu'il faisait des bons résultats s'il en faisait. Donc là, comme c'est la pause, et que finalement, chez Marussia, c'est pas forcément évident de... On n'en parle pas souvent, il est un peu dans l'ombre. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en avant le fait que on parle beaucoup de Grosjean, on parle un peu aussi de Vergne, beaucoup moins de Pic. C'était l'occasion de dire que il fait pas du si mauvais boulot que ça non plus. Donc,
je trouve quand même que dans les médias, on a plus tendance à parler de Pic que de Vergne.
Maintenant, oui, je trouve.
Bah, parce que Pic passe régulièrement devant Glock, quoi.
Oui, parce que Vergne, il tarde à confirmer quand même ce qu'on a vu en début de saison.
Oui. Mais Vergne, son problème, c'est les qualifs, hein. Parce qu'en voiture, en course, il est pas mauvais. C'est un peu le même problème qu'un Senna, finalement. Il est pas si, il a un problème en qualification. En plus, il a une voiture qui est pas un cadeau, hein. La Toro Rosso.
Ah non, c'est des ardents.
A été pas mal,
Mais ça, c'est le mystère Toro Rosso, quoi. Ils sont toujours plutôt pas mal lors des essais. C'est toujours des voitures qui sont très jolies à regarder. Enfin, la Toro Rosso est quand même une voiture splendide à regarder. Mais en même temps, voilà, ça peine à confirmer.
Mais je crois que c'est sur le blog de Cédric Voissard, où j'ai lu un article.
Il a un blog?
Ouais, ça s'appelle.
Mais ils ont tous des blogs.
C'est sur le Figaro, mais je sais plus le nom. Enfin, bref.
Ah, je lis pas le Figaro, moi, monsieur. Je lis Le Monde et Libération. Et mais surtout le Vitolibé, d'ailleurs.
Je sais plus dans quel... Il faisait un peu le bilan, je crois, après... avant l'Allemagne, des trois pilotes français. Et,
il mettait des notes.
Non, il mettait pas de notes. Parce que, bon, qui il est pour mettre des notes. Mais non, sérieusement, il expliquait que c'était un peu finalement dommage que Red Bull ne donne pas les moyens à Toro Rosso de faire beaucoup mieux, parce que...
Mais est-ce que c'est Red Bull qui donne pas les moyens, ou est-ce que c'est Toro Rosso qui sait pas les utiliser?
À mon avis, c'est aussi Red Bull qui les donne pas, parce que...
Moi, je pense qu'il y a une conjonction des deux. Après, en même temps, c'est-à-dire que ils savent pas les utiliser. Enfin, on prend le cas de Giorgio Ascanelli, par exemple, qui est parti. Enfin, on sait pas.
Il est en vacances, ouais. Officiellement, il est en vacances.
Il est en vacances. c'est ma citation, d'ailleurs, mais je vais la reciter tout à l'heure. Mais voilà, il est en vacances. En même temps, Giorgio Ascanelli, c'est quand même le mec qui était là au début, avec l'aventure Sébastien Vettel. Donc, on peut pas non plus dire aujourd'hui, Ascanelli, il fait des voitures de merde. Voilà, c'est juste que il y a un modèle qui a changé. À l'époque, il y avait l'aide de Red Bull qui aidait beaucoup, puisqu'il filait les plans.
Bah, c'est la même voiture.
Toro Rosso concevé. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être aussi un besoin derrière de revoir les structures de Toro Rosso. Peut-être qu'ils n'ont pas fait cet effort au moment où ils se sont retrouvés à devoir construire leur voiture tout seul, pour engager, aussi miser sur la jeunesse et engager les ingénieurs de demain de chez Red Bull. Je pense que il y a ça aussi qui manque, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, Toro Rosso, on n'arrive pas non plus à voir qui sont vraiment les ingénieurs de cette équipe. Voilà, en quoi cette équipe aussi pourrait être l'avenir de Red Bull en tant qu'équipe avec le futur Adrien Newey ou etc.
Mais même, enfin, c'est pas évident de c'est ce que Voissard soulignait, c'est pas évident de trouver le nouveau Vettel si t'arrives pas à avoir une écurie qui permet à ce nouveau Vettel, en guillemets, de bien que trouver le nouveau Vettel, c'est aussi stupide que de dire on va trouver le nouveau Schumacher, mais permettre à un jeune pilote de vraiment se montrer de quoi il est capable, quoi.
Et surtout que Vettel s'est révélé sur une Toro Rosso qui était meilleure que la Red Bull à l'époque.
Oui. Oui.
Voilà, parce que c'était
la grince des dents d'ailleurs chez Red Bull.
Beaucoup,
hein,
mais... oui.
Le truc, c'est de réussir à ce que Toro Rosso soit performante, mais pas suffisamment pour pouvoir dire qu'elle va aller éclipser Red Bull comme elle l'a fait avec la victoire de 2008. Là, au moins, vu les résultats, on est sûr qu'ils vont pas faire de long. Mais
oui. Le problème, c'est qu'ils en font pas du tout, et que, comme tu le dis, est-ce que c'est un bon contexte pour préparer l'avenir des pilotes?
Moi, je pense que, de toute façon, déjà au niveau du management, aussi bien Franz Tost que Helmut Marko, ce management est, voilà, je pense pas que ce soit le meilleur.
Tu sais, il y a peut-être aussi un côté
pour un pilote pour s'épanouir, mais bon.
Il y a peut-être un côté un peu pervers de la part de Red Bull, qui est de se dire, voyons comment ces jeunes pilotes se démerdent dans une situation très compliquée pour voir ce qu'ils valent.
Oui. Oui, enfin, en même temps, oui et non, parce que quand tu vois Vettel dans certaines situations un peu sous pression.
Oui.
En 2010, il a quand même fait quelques boulettes, quoi. Et encore cette année, je crois que c'est lui en Hongrie qui s'est plaint pendant des essais libres qu'il y avait trop de voitures en piste, et que son ingénieur lui a dit, Sébastien, il y a 24
voitures.
Il y a le
fameux cornichon.
Non, c'est Alonso.
C'est sur Alonso.
Non. C'est Alonso, c'est André Astellet qui lui a dit, ouais, mais il y a 24 voitures, c'est le plus petit circuit de la saison, c'est fait avec.
Non, Vettel, c'est par exemple, c'est le cornichon de Cartier-Cayon, par exemple, cette année.
Ouais, mais ça, c'est pas encore pareil, enfin, c'est la frustration du pilote, ça peut se comprendre.
Oui, mais voilà,
Vettel, c'est ils ont quand même un ego tous démesuré, c'est ça, en guillemets, c'est logique, c'est, voilà.
Vettel, c'est, il faut que nous fassions quelque chose, là, pendant la course, en...
Ouais.
Faites quelque chose,
en fait. Ça, c'est pas qu'il s'énerve, c'est vrai que c'est le battant, il sent bien qu'il qu'il est derrière, qu'il est plus rapide et que
il se donne à fond, mais derrière
il ne saura pas le passer sur la piste, donc il faut qu'il le passe autrement. Et donc c'est à son équipe de trouver un moyen de passer en changeant la stratégie.
Bah voilà, c'est un mec qui tout simplement avoue qu'il est voilà, il peut plus rien apporter de plus à la voiture et dit voilà, enfin voilà, moi je peux plus faire la différence, faites quelque chose pour m'aider quoi.
C'est aussi pour ça que enfin on a vu les Lotus rester coincées derrière Hamilton, dès qu'elle se rapprochait à plus environ d'une seconde, tu sentais bien que la voiture n'avait plus la même stabilité, que ce soit Grosjean ou Raikkonen, ils ont.
Et c'est là pour moi où Hamilton a superbement joué le coup en fait. Moi je reste convaincu qu'il a œuvré que sur les qualifications, ce qui reste primordial quand même.
De toute façon, sur ce circuit là, c'est important.
Tu travailles là-dessus quoi.
Et virer en tête au premier virage et puis c'est bon quoi.
C'est pour ça que je suis bon en Budapest. Donc, je m'y qualifie toujours bien, je suis toujours premier.
C'est vrai qu'à piloter, c'est un chouette circuit. Après, les courses, en général, on s'emmerde. Mais
Alors, messieurs, c'était tout pour les actus. Alors, déjà, première question, que voulez-vous proposer à nos auditeurs?
Bah, elle est pourrie, là. Celle qui nous intéresse pas.
Mmh.
Ouais. Bon, de toute façon, il y en a au fait.
Il y en a autant, hein, donc n'hésitez pas de soucier au niveau du nom.
Il y en a aucune qui nous intéresse, en fait.
Oui. Donc, on va vous proposer un...
Attends, il y en a combien au total?
Il y en a 5. Enfin, il y en a 10 en tout, donc il y en a 5 qui comptent et 5
parce
qui comptent pas.
À la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre les 10.
Ah oui.
Et à la fin, on pourra comparer si les 5 plus importantes sont les 5 plus importantes chez nous aussi.
D'accord. Donc
si les 5 plus chiantes sont bien les 5 plus chiantes
donc,
de chez nous.
On vous demande la question traditionnelle, donc quelle est l'actu la plus importante, mais on vous met les 10.
Voilà. Vous en pensez quoi, Ben et Gus?
C'est une bonne idée. Ouais, ça me paraît bien, ça. Parce que finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse actu.
Ouais.
Et pourtant, encore une fois, j'ai balayé tout, moi, personnellement. J'ai vraiment tout jusqu'au Mac du 18.
De même, est-ce que vous voulez citer, enfin, est-ce que pour vous, il y en a une qui compte moins qu'une autre? C'est vrai que, bon, elles sont pas...
Pour moi, les droits TV,
en France. Ouais, mais
les droits TV, y a rien
moi,
de neuf.
Personnellement, je m'en fous, donc, d'autant plus que...
Ouais, je dirais les droits TV aussi.
Mais,
T'es belge?
Ouais, je suis belge.
Oh merde.
Ouais.
On en a marre des Belges. Bon, la semaine dernière, on a eu un Belge, mais il était à 800 mètres de la frontière, donc il était un peu français. Donc
je suis pas très loin, hein, de la frontière.
Ouais, bah, t'es à moins de 800 mètres?
Non, 800 je suis pas kilomètres. Moins de 800 mètres, mais je suis dans le sud, je suis pas loin de Luxembourg.
800 kilomètres, alors le mec qui est en Belgique est à moins de 800 mètres. Et t'as plus de 800 km de la frontière, il est balèze.
Ouais.
Le mec, il a croisé un tronc dans le sol. Il est au niveau du cœur de la planète, tu vois.
Bon, je dirais.
Moi, je suis pas loin de Luxembourg, donc je suis vraiment pas loin de la France non plus.
Bon, moi, je dirais Button pas encore prêt à aider Hamilton, mais c'est juste que je peux pas dire que je m'en fous, c'est pour les droits, puisque c'est moi qui l'ai mis. Allez, dans ce cas, on va passer aux citations. Et Dino, donc. Tu as dit oui, j'ai une citation.
Oui, bah c'est la citation de Franz Tost, directeur de l'écurie Toro Rosso, qui disait « Je peux simplement vous dire que Giorgio Ascanelli est en vacances. » Donc ça, c'est la partie où, bon, à la limite, il n'y a rien de suspect. Sauf que derrière, il rajoute « Les deux parties sont tenues à la confidentialité, c'est tout ce que je peux dire. » Donc, retenons bien, chez Toro Rosso, quand on part en vacances, c'est confidentiel. Donc, quand vous irez en vacances, vous direz « Écoute, je vais en vacances, mais je peux rien dire. Mon patron et moi, on a dit que c'était confidentiel. » C'est un peu comme ça que ça fonctionne chez Toro Rosso. Donc, bon, grosso modo, il est parti, Ascanelli. Hein. Il n'y a pas de doute.
Alors, je vais me lancer, moi. J'avais prévu de parler de la citation de Button, mais on est déjà largement revenu sur la question. Donc, je vais juste citer celle de Charlie Whiting, qui dit « Schumacher a vraiment causé le chaos sur ce départ. Il devrait connaître le règlement. » Voilà, c'est juste un rappel à l'ordre. Schumacher, qui parfois râle sur un peu tout et n'importe quoi. Et ici, pour l'occasion, c'est lui qui se fait un peu rappeler à l'ordre. Ça me fait penser à la réaction qu'avait eu Paul Emberry concernant les critiques de Schumacher sur les pneus et qui disait que le règlement n'était pas fait uniquement pour lui mais pour tout le monde. Donc ça fait deux fois qu'on lui parle de règlement, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, c'est
oui, moi, puis, nul n'est censé ignorer la loi.
Oui.
C'est surtout que venant d'un pilote de cette expérience, ça fait quand même un peu cocasse de dire qu'il s'est trompé. Mais bon.
En même temps, faut comprendre, Schumacher, depuis les 10 commandements, ouais, c'est à peu près,
ouais.
Il a tout le règlement à apprendre. Tous les ans, ça change. Moi, je comprends Schumacher qui se trompe. Il ne peut pas passer toutes ses intersaisons à rapprendre le règlement.
Mais c'est pas lui qui l'écrit, le règlement,
Ouais, non.
Et puis une époque où il avait pas besoin de l'apprendre parce qu'il l'écrivait, mais on l'écrivait pour lui. Maintenant, Ferrari domine moins. Puis il est chez Mercedes, donc ça l'arrange pas.
Ouais. Moi, j'ai une citation de Lewis Hamilton. Comme pilote de course, vous travaillez pour obtenir et ramener deux choses. Le premier est votre casque, le deuxième est votre trophée. Pour moi, cela n'a pas de prix.
Ça me rappelle.
Il les veut, ces trophées, hein.
Pour le reste.
Il n'en démord pas, hein.
Pour le reste. C'est vrai que chez McLaren, ils ont des copies.
Oui. Et lui, il veut les vrais.
Ça fait partie de...
Et ça te rappelait quoi, Gus?
Je disais, pour le reste, il y a Eurocard Mastercard.
C'est dommage, elle est pas passée. Mais sinon, ouais. Si elle passait, elle était très bien.
Elle était très bon avec le montage.
Je sais qu'à la boutique des Jeux Olympiques. Oui, parce que j'ai pas encore remis de trucs sur les Jeux Olympiques. Vous avez remarqué, hein. Donc, faut bien que j'en sorte une. Tu ne peux pas utiliser de carte Eurocard Mastercard.
Moi, ça, c'est
parce que c'est Visa qui sponsorise, donc tu peux pas utiliser une autre carte.
Moi, j'ai vu plus vicieux que ça. Enfin, c'est pas ça n'a rien à voir avec les cartes, mais j'ai été sur le site des Jeux Olympiques et il y a quand même une section où j'ai eu un message. Désolé, cette zone n'est pas accessible depuis votre zone géographique. Alors que c'est les Jeux Olympiques, bordel.
Il se plaint, mais tout ça pour télécharger un wallpaper pourri des mascottes toutes moches des Jeux.
Hein. Non, je sais même plus quelle section c'était, franchement. C'était vraiment je me promenais vraiment comme ça sur le site. Je me suis dit, c'est vraiment débile.
Non, mais je me promenais, chérie, je te jure. Non, mais Ben, il faut t'apprendre la vérité. En fait, pour avoir accès au site, il faut que ton pays ait au moins 5 médailles. C'est pour ça.
Mais j'ai constaté qu'on en avait 3, que les Espagnols n'en avaient que 4. Ça m'a surpris. C'est bon, ils sont quand même, ils marchent pas qu'à l'eau, les Espagnols, hein. Les amis. Mais non.
Attends, si les Espagnols marchent pas à l'eau, qu'est-ce qu'on marche, nous?
Et bizarrement, aux Jeux Olympiques, ils font pas grand-chose. Je comprends pas.
Gus, une citation?
Oui, c'était encore Lewis Hamilton. Ce qu'il dit n'a pas grand rapport avec moi. Mon patron, c'est Martin. Et c'était donc à propos de Ron Dennis. Ce qui met bien les choses vraiment bien au clair par rapport à la hiérarchie chez McLaren. Ouais.
Bah, de toute façon, oui, le patron de l'écurie, maintenant, c'est Whitmarsh. Ron Dennis, il s'occupe surtout des voitures de route, maintenant.
C'est McLaren Automotive.
Voilà, McLaren Automotive.
Parce que c'est pas des automobiles, c'est des automotives.
Qui a fermé ses usines.
Oui. Wow. Bien sûr.
Moi, je sais pas, le dernier épisode de Tools, dedans, elles étaient ouvertes, les usines. Donc, moi, je demande à vérifier.
Oui.
Ça me fait rire, moi. J'ai regardé le dernier.
Avec les cas de Hakkinen.
Ça m'a fait rire.
Il y avait le
John Trump gimmick à chaque fois.
Mais si, on va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors Dino, avons-nous eu des questions pour le répondeur?
Oui, Shinji, nous avons eu des questions avec... Alors une première question qui nous était envoyée par Roger Léphant. Vachement discret, le Ben. qui nous parlait de Jean-Loup Moncey, qui nous demandait de faire un peu une biographie de Jean-Loup Moncey. Alors personne l'a prise. Est-ce que quelqu'un a préparé quoi que ce soit?
Non, parce que je me rappelle que dans sa question, il parle des trucs Wikipédia, et moi personnellement, les seuls trucs que je pourrais dire de lui, c'est les trucs Wikipédia.
Voilà.
Oui, moi je me suis fait la même réflexion en fait.
Donc du coup, quand c'est comme ça, généralement c'est moi qui m'y colle, sauf que...
Faut voir que pour nous, Jean-Louis Moncey, c'est un peu comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'il a toujours été là, hein, voilà, il est...
Bah c'est comme Michel Drucker, Gérard Holmes, Nelson Montfort et ses questions stupides...
Un quatrième au pied du podium, est-ce une déception pour vous?
Non, pas du tout, je crois que je suis très content.
Non, mais est-ce qu'il a pas aussi réussi à aller interviewer un médaillé sur une course sur les performances du français derrière, enfin alors que le mec
il a quand même demandé à Florent Manaudou s'il avait pas une pensée pour son beau-frère qu'il avait éliminé. D'abord je pense à mon titre.
C'est hier, je crois que c'est au 800 mètres, il interview un Américain, puis tu sais le grand truc, le truc très franchouillard, très français, c'est qu'il de parler du sportif français à l'étranger et lui demander qu'est-ce qu'il en pense.
Mais oui, mais c'est ce qu'il a fait pour avec Agnel, je crois que c'est ça.
Oui, mais en athlétisme, à un moment il l'a fait, il dit oui, vous connaissez machin, et l'autre l'Américain il dit avant aujourd'hui non, je le connaissais pas.
Ouais, mais voilà. C'est comme si hier le journaliste belge avait été demandé c'est qui a gagné le 400 mètres? Kyriani, c'est ça? Il lui demandait ce qu'il pensait des frères Borlée qui ont fait 5 et 6. Enfin, je veux dire, il s'en fout le type.
Ils ont fait 5 et 6, les frères Borlée.
Mais Jonathan était un peu court, mais Kevin aurait pu. Mais bon.
Donc, juste pour répondre à Globen, donc j'ai pas fait la biographie de Julien Cep. Il se trouve que ça fait 5 jours que je suis malade. C'est la première journée où je suis en forme.
Donc, mais coup, nous t'invitons à aller sur Wikipédia, toutes les informations utiles.
Voilà, tu trouveras toutes les infos sur Wikipédia. À noter que tu nous demandes une information que tu ne trouveras pas sur Wikipédia. Et comme tu es apparemment, tu aimes les jeux de mots, Globen, puisque tu nous as écrit un mail au nom de Roger Elephant, je vais te donner cette information précieuse que tu pourras sans doute réutiliser dans toutes les soirées.
Porte des vestes bleues, ça c'est pas marqué sur Wikipédia.
Non, j'ai encore mieux, Shinji. Sache, mon cher Globen, sachez, chers auditeurs et auditrices, sachez, chers chroniqueurs et toi, Shinji, sachez que l'anagramme de Jean-Louis Moncey, c'est éjaculon témoin.
Voilà. Je me désolidarise de cette émission. Je sais que Jean-Louis est un grand auditeur du SAV. Je me désolidarise complètement.
C'est une vraie info, pas donc.
Voilà, c'est une info essentielle. Voilà, Donc ensuite une question suivante. On va revenir sur la question. Alors on va aussi avoir une petite pensée pour Bouchard. Vous avez envoyé une question sur la météo en Formule 1. Donc Bouchard, on ne va pas répondre à ta question. Pour une simple et bonne raison, c'est que théoriquement aujourd'hui, tu as découvert sur Faire des Fins un article sur la météo, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Hein. Un
vrai,
article de,
question,
de Romain.
C'est sur les sites, on pouvait, il y a pas de site dédié sur ça.
Bah non.
Après, il y a le sur live timing. Voilà, là c'est pas de la prévision, c'est ce qui est capté en fait sur le circuit.
Voilà, sinon il y avait quoi comme voilà, il voulait la définition concrète et technique d'une trapanelle et de qu'est-ce qu'un concombre. Bah carticulant, c'est un concombre et une trapanelle, bah c'est une poubelle.
Sinon c'est un cucurbitacé.
C'est une poubelle avec un moteur et un pilote à l'avant. Voilà.
Et je crois que ça vient d'une machine,
c'est une trapanelle, aux mains de Felipe Massa.
Mais ça vient pas d'une machine qui s'appelait la trapanelle et qui était pas au point ou quelque chose dans le genre.
C'est pas impossible.
Sinon, pour les concombres, bah, tu vas dans ton supermarché, tu regardes dans le côté des condiments.
Moi, ouais, ce que je me pose comme question, puisqu'on est dans les questions de vocabulaire, c'est qu'est-ce que... Enfin, je vois bien la pièce en question, mais qu'est-ce qu'une tuyère? Parce que Christophe Malbranc avait l'air tout en admiration devant la tuyère de chez... Je crois que c'était chez Lotus, avec leur DRS, là.
Il s'appelle ça... C'est un mot savant pour tuyau, surtout.
Mais non, mais moi j'avais l'impression qu'il expliquait que cette pièce c'était en fait l'espèce de truc en cuillère qui est derrière et qui ressemble finalement ce que certains appellent aussi un espèce de siège de singe. Comme quoi les termes techniques en Formule 1.
J'ai la page Wikipédia de tuyère. Une tuyère pulsive dans le domaine de l'astronautique est un conduit de section conique.
Ah donc c'est le conduit. D'accord.
Voilà.
C'est donc bien
placé
le conduit.
À la sortie d'un propulseur.
D'accord. Donc c'est moi qui avais mal le.
Donc encore une fois, Malbranc ne sait pas de quoi il parle.
Oui, oui, parce que.
C'est pas connu.
Non, mais moi je critiquais pas du tout. C'était juste pour savoir de quoi il parlait exactement.
Ah moi je.
Ça y est, c'est
pas grave.
On s'engage, nous, monsieur. Alors tiens, justement, une petite question pour Gus Gus, qui nous est envoyé par Adelin, notre invité du Grand Prix de Hongrie, qui nous dit « Eh oui, c'est encore moi. En voyant les conditions pluvieuses en Allemagne, j'ai repensé à Silverstone. Ce garçon est incroyable. Là, j'avais remarqué des sortes de vortex au niveau des ailerons quand les pilotes fermaient leur DRS. Il y avait la même chose en Malaisie. Ma question est simple. Pourquoi ? C'est purement une question technique. T'avais déjà donné des éléments de réponse, je crois, en début de saison.
C'est l'air, c'est l'air.
Oui, c'est l'air et l'eau, comme vous allez le voir. Adelin, sache tout d'abord que ces tourbillons sont présents au passage des monoplaces de F1, quelles que soient les conditions. Donc, comme j'ai pu l'expliquer dans différents articles sur Fan F1, les ailerons pressurisent l'air qui passe par le dessus et dépressurisent le flux qui passe par en dessous. C'est d'autant plus vrai qu'il est pour l'aileron arrière qui est plus gros que l'aileron avant. Et au niveau de l'aileron arrière, l'air à haute pression qui passe par le dessus cherche par tous les moyens à gommer cette différence de pression entre les deux faces. Mais faute de pouvoir le faire parce qu'il y a les montants qui sont là pour soutenir l'aileron, l'air va passer de l'autre côté des montants, par le dessus, où la pression est restée relativement stable. Elle n'a pas ni monté ni baissé par rapport à l'endroit où est l'aileron. Et donc c'est ce mouvement de l'air qui se déplace de l'aileron vers de l'autre côté des montants qui crée les tourbillons.
C'est les fameuses fuites en fait.
Oui, c'est les fuites, sauf qu'il y a les montants sur le chemin quoi.
Oui, voilà.
Entre parenthèses, les tourbillons évidemment sont pas souhaitables parce que c'est à l'origine de d'une énorme partie de la traînée qui freine les voitures en ligne droite. Et une façon de les combattre pour les écuries, c'est de percer sur les montants des espèces de persiennes pour que l'air s'écoule naturellement vers le haut en gardant l'appui mais en faisant moins de traînée. C'est histoire de rééquilibrer un peu la pression de chaque côté des montants de l'aileron.
Donc s'il y avait pas ces petites encoches sur l'aileron arrière, les vortex seraient beaucoup plus gros.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et c'est aussi quelque chose qu'on observe sur certains circuits, même s'il pleut pas, dans les longues lignes droites, par exemple.
Mais justement, c'est la
deuxième... Ça, c'est plus visible quand il pleut, mais ça peut aussi être vu sur certaines pistes.
Même sur les avions.
Quand il fait,
voilà, vous anticipez, vous anticipez sur la deuxième partie de la réponse. On ne les voit que très rarement en fait parce que il faut que l'air soit très humide, alors que ce soit quand il pleut, soit quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air sans qu'il pleuve, parce que le passage de l'aileron il modifie les conditions atmosphériques de l'air au niveau de la monoplace en température et en pression, et parfois on atteint des conditions où la vapeur d'eau contenue dans l'air elle peut plus rester complètement à l'état gazeux. Donc l'air est alors saturé en vapeur d'eau et le surplus doit se condenser, ce qui forme des gouttelettes qui suivent le parcours des tourbillons et les rendent visibles. Et une fois que la monoplace est passée, l'air revient à des conditions normales et les gouttelettes se revaporisent.
Mais c'est pour ça que ça se voit par exemple, j'allais dire, en Chine par exemple.
Voilà, il faut un air humide ou vraiment de la pluie.
Et c'est ce qui fait que généralement la pluie fait le plaisir des fans d'aérodynamique parce qu'ils voient bien le...
Exactement.
Voilà. Toute la projection et compagnie.
L'écoulement.
Donc voilà, en espérant que ça ait bien répondu. Je pense que ça a bien répondu à la question de Adelin. Une autre question, il y a pas mal de questions, pas mal de petites questions, mais pas mal de questions. Cela, on va attendre, c'est une nouvelle question technique, on va permettre à Gus de se faire une petite pause.
Ouais, je vais me prendre un coup.
Une question de Phil. Bonjour, pourriez-vous faire un point sur l'utilisation des codes couleurs sur les live timings lors d'une de vos prochaines chroniques? Blanc, jaune, vert, violet, j'avoue que parfois je suis un peu perdu. Sinon, continuez comme ça, bien des professionnels de la profession feraient bien de s'inspirer de votre travail. Merci Phil.
Bon, vous m'excuserez, je déboutonne un bouton de ma chemise.
Oh là, Phil, attention, il déboutonne un bouton de sa chemise.
C'est vrai que Phil, de pâté Phil, il aurait besoin de conseils.
Donc, sur les couleurs...
Moi, j'ai toutes les couleurs, je peux les donner.
Oui, parce qu'elles sont... Alors, c'est vrai qu'il faut dire qu'elles sont indiquées normalement sur le live timing. Maintenant, c'est vrai que le live timing, tout le monde n'a pas forcément le réflexe d'aller voir les codes couleurs. Et en plus, aujourd'hui, notamment sur les pages Facebook et compagnie sur certains groupes, on vous met l'image, le screen du live timing sans vous donner le code couleur.
J'ai envie de dire, c'est une image très mémorable de la F1 parce qu'on en a tous vu.
Elle est super archaïque.
C'est super archaïque.
Voilà. Et en plus, il se trouve que c'est même devenu dans le langage des commentateurs qui souvent disent, même nous, on le fait ça parfois dans les articles, dans les résumés, où on dit, voilà, il fait un tour, il met tous ses secteurs en violet ou en vert. Voilà, donc à chaque fois, faut expliquer effectivement ce code couleur.
Alors déjà, je m'excuse auprès des daltoniens.
C'est pas grave.
Mais bon, voilà. Vous daltoniens qui ne voyez pas ces couleurs-là, oui, vous allez découvrir quelles couleurs, en fait, nous, on voit, en vrai. Alors déjà, bon, je préciserai que pour la première couleur, il y a forcément le noir, hein, qui est le fond.
Hein. C'est vrai.
Eh oui, faut... Sinon, la couleur par défaut, donc des indications, c'est le jaune, sans doute parce que ça se voit vachement bien sur un fond noir, c'est une question de contraste.
Jaune et noir, violet, marron.
Ne le laissez pas chanter.
Mais non.
C'est bien que tu chantes cette chanson, puisque la troisième couleur, c'est le rouge. Donc elle qui apparaît sur les noms des pilotes, ainsi que leur numéro de voiture. Les noms passent au rouge, en fait, quand la voiture sort et rentre dans les stands. Normalement, c'est ponctuel, hein, parce qu'après, ça repasse normalement en couleur normale.
À la fin quand il rentre au stand, ça passe au rouge et ça redevient couleur normale quand il a fini le premier secteur.
Normalement, c'est accompagné d'une précision, donc soit out quand ils sortent ou in pit quand ils rentrent au stand. Normalement, c'est indiqué à l'autre bout du live timing. Couleur suivante, c'est le blanc. Alors le blanc, pour être précis, indique l'information la plus récente en temps. C'est-à-dire, notamment, quand par exemple on fait le premier secteur, quand il y a le temps du premier secteur qui s'affiche, ça va passer en blanc, puis ensuite ça va passer en jaune quand le pilote va passer le deuxième secteur, etc.
D'accord. D'ailleurs, si aujourd'hui vous allez sur le live timing tout de suite maintenant, vous avez encore l'écran de la course du Hungaroring et les informations en blanc, c'est le meilleur, c'est le dernier.
C'est
tour,
le dernier.
Donc le chrono. Voilà. Plus le dernier secteur, c'est-à-dire que voilà, parce que les deux dernières informations qui sont arrivées, c'est le dernier secteur et donc comme le dernier secteur aide à faire le temps total du tour, le temps du tour. Donc voilà, c'est les deux dernières informations qui s'affichent.
Ensuite, les deux couleurs qui sont peut-être les plus importantes, il y a d'abord le vert. Le vert, c'est simple, ça indique le meilleur temps d'un pilote sur, bien évidemment, la session. Donc, dès qu'il bat son temps, ça va passer au vert. Mais il y a mieux que le vert, c'est le violet, parce que le violet, non seulement on améliore son temps, mais le violet signifie que c'est le meilleur temps de la session. Donc, la pole, normalement, forcément, c'est tout en violet.
Mais c'est le pour le vert et le violet, c'est le même code couleur quand tu joues à F1 2011, par exemple, et que tu fais des tours chrono.
Oui, parce qu'il reprend les codes couleurs.
Ouais, exactement. Donc, quand tu passes la ligne d'un secteur, si ton temps est en vert, bah, tu sais que t'améliores ton chrono. Et si c'est en violet, bah, c'est que non seulement tu améliores ton chrono, c'est que tu fais le meilleur temps.
Tu fais le meilleur temps.
Pour la pole.
Enfin, dernière couleur, le gris. Alors, lui, il est utilisé uniquement pour les qualifications. Il s'applique principalement, et lui, il est pas sur les temps, mais sur les noms. Et il est en Q2 et en Q3, tout simplement pour indiquer les pilotes qui ont été sortis. Donc on le voit pas en Q1 puisque tout le monde roule, mais dès la Q2, on va trouver les 7 derniers pilotes et en Q3, bah les 14 pilotes, il va rester plus que les 10 premiers pilotes. Donc voilà, c'est le panel de couleurs qu'on trouve sur le live timing officiel de la F1, qu'il faut rappeler est accessible gratuitement sur le site officiel de la F1, faut juste s'inscrire.
Oui, mais leurs commentaires ne sont pas aussi bien que les nôtres.
Ah non, c'est juste le live timing.
Mais faut quand même rappeler que si ces couleurs-là sont faites, c'est exprès pour Bernie Ecclestone, parce que les couleurs vives l'aident à rester jeune. Voilà, donc il regarde tout le temps le live timing en disant « Ah, les couleurs !» Pour ça qu'il aime Ferrari hein et Red Bull.
Ah bah il doit être content des Jeux de Londres alors, parce que les couleurs vives...
Oui, par contre il aime pas McLaren, mais là c'est parce qu'il voit son reflet dans la carlingue.
Oui.
La carlingue, la carrosserie.
Donc voilà, c'était tout pour les couleurs du live timing.
Et enfin, on a une dernière question de Jackie Ratzenberger, qui d'ailleurs nous accompagnera pour le Grand Prix de Belgique, d'Italie, qui nous pose la question suivante. Lors de l'émission de dimanche F1 de Silverstone, il y avait Charles Pic qui a parlé pas mal avec Franck Montagny sur les pneus, sauf qu'il a manqué l'information principale, à savoir quelle est la fenêtre de température pour chacun des pneus. Je ne comprends pas que cela n'ait pas été dit, d'autant que cette information devrait être publique, vu qu'il n'y a qu'un seul manufacturier Pirelli, ils ont parlé également de sortir de la fenêtre d'exploitation, est-ce par le dessus ou par le dessous, bref, un thème plein d'interrogations que le SAV, fort de ses bonnes relations avec Pirelli, pourrait enfin clore. Alors juste avant de te donner la parole, Gus, j'ai contacté Pirelli et la réponse de Pirelli c'est, alors on peut vous donner les chiffres de IDEO, d'ailleurs il y a une vidéo qui a été postée sur FanF1 qui donne les chiffres de température, mais il dit le reste faut voir avec les équipes parce que c'est des informations classées confidentielles. Donc voilà.
Oui, c'est effectivement ce que j'allais dire, c'est crucial que ce genre d'informations soit pas publique. D'une part parce que pour le manufacturier c'est un moyen de protéger les caractéristiques de son pneumatique de la concurrence par rapport à l'espionnage industriel. Mais surtout, c'est des informations qui sont critiques de la compétition. C'est aux écuries de les trouver, de les comprendre par elles-mêmes pour tirer le maximum des pneus et être les plus performantes. Donc c'est autant de raisons pour que Pirelli ne les donne pas publiquement. Donc effectivement, comme tu l'as dit, les seuls chiffres mis à disposition, c'est les températures de fonctionnement optimal des pneus. Alors à savoir, pour les super tendres, 95 degrés.
Après c'est 10 sur 10.
Voilà, c'est ça. 105 pour les tendres, 115 pour les médiums et 125 pour les durs. Hein, des degrés centigrades, voilà. Donc effectivement, on peut retrouver ces chiffres dans les excellentes vidéos postées sur le compte Dailymotion de FanF1. Les seules autres choses qu'on sait sur les pneus Pirelli, c'est que comparé au Bridgestone, la fenêtre elle est volontairement restreinte pour que les pneus soient pas trop faciles à utiliser, et donc que ça représente un challenge pour les écuries. Quant à la deuxième partie de ta question, Jackie, sur est-ce qu'il faut être en dessous ou au-dessus de la fenêtre, En tout cas, en Formule 1, c'est jamais bon d'être en dehors, que ce soit en dessous ou au-dessus, parce que en dessous, les pneus trop froids, ils sont pas assez malléables pour accrocher à la piste, pour accrocher comme il faut, parce qu'ils fondent pas assez et donc ils produisent pas assez, ils génèrent pas assez d'adhérence. Alors que au-dessus de la fenêtre, quand les pneus sont trop chauds, ils s'usent beaucoup trop vite, ils partent littéralement en lambeaux. Donc c'est très important de rester exactement dans la fenêtre de température pour avoir et les pneus les plus durables et les pneus les plus performants.
Mais d'ailleurs, enfin, c'est aussi dans les choix de Pirelli, qui en fonction des circuits, des conditions météo qu'il peut y avoir, va choisir aussi ses pneus en fonction de ces critères-là. On peut penser à Singapour. Singapour, ils vont nécessairement prendre, bah d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont confirmé, ils vont prendre les super tendres et les tendres. D'abord parce que c'est un circuit urbain et généralement sur circuit urbain, on prend ces mélanges-là. Oui. Mais en plus, là, les conditions de nuit font que, même si la température reste élevée, mais les conditions de nuit font qu'il est quand même nécessaire d'avoir des pneus qui se montent à, entre guillemets, assez facilement en température. Oui. On peut aussi faire une comparaison, je pense, par rapport à Spa, où les températures sont pas toujours non plus idéales.
Il fait super beau à Spa, je vois vraiment pas le problème.
mais où on voit, alors j'ai pas les chiffres de l'an dernier, mais on peut penser que les pneus de l'an dernier étant un peu plus durs, notamment les pneus durs, montaient un peu plus, enfin la température idéale devait être peut-être au-dessus de 130-135 degrés, là où c'est 125 aujourd'hui. Et on constatera que cette année, ils ont décidé de prendre les médiums et les durs. Voilà, là où l'an dernier ils avaient pris les tendres et les médiums. Donc fondamentalement ils sont restés à peu près sur les mêmes types de gomme et les mêmes peut-être fenêtres de température d'exploitation idéale, parce que voilà, c'est un circuit qui demande plutôt ces critères-là. Donc voilà, c'est tout pour les questions, il me semble. Pas mal de questions cette semaine. Donc n'hésitez pas, hein, pour nous poser des questions, hein, c'est répondeur@savf1.fr. Profitez-en parce qu'il y aura plus nécessairement beaucoup de mags d'ici la fin de saison, vu qu'il y a pas mal de grands prix qui vont suivre les uns derrière les autres. Donc il y aura quasiment des mags toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même des débats que vous voulez ouvrir, n'hésitez pas, répondeur@savf1.fr.
On rappelle qu'il y a le concours pour l'émission.
C'est quoi ? Oui.
Rappelle-nous la question.
Alors, la question, elle nous était posée par Adelin, et c'est la suivante. Le circuit de Spa-Francorchamps ne porte pas bien son nom. Pour être tout à fait logique, quel devrait être son nom ? Le mystère. Ouais. Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Et on vous a demandé des questions sur donc le Grand Prix d'Italie et l'hymne italien, comme thème subsidiaire.
On vous rappelle donc que pour le sondage, hein, faut se rendre sur le site fanf1.com où vous allez sur l'article qui sera consacré à cette émission. Donc vous aurez peut-être même déjà voté et vous serez dit, mais pourquoi il y a 10 trucs cette semaine? Parce que comme ils votent avant d'écouter.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bah non, vous savez.
C'est sûr qu'il va y avoir vraiment beaucoup de trucs qui nous effilent. Je pense que c'est ça, les gens vont se dire, attends, il y en a 10. Bon, il y en a 10, déjà, c'est pas les 5 de d'habitude. Donc, c'est les 10 qui les ont fait chier. Attends, il y a quand même des sujets qui les ont fait chier, qui sont quand même pas inintéressants.
Steve Corr qui a envoyé 10 actus cette semaine.
Voilà. Il va y avoir un suspense pour les gens de se dire, mais mince, c'est les 10 actus qui sont nuls, c'est quoi leur
choix? Les 5 meilleurs.
Alors qu'il c'est tellement plus simple d'écouter le podcast avant de voter, quoi.
Voilà.
On vous rappelle qu'on est sur iTunes, on vous rappelle qu'on est sur podcastfrance.com,
ouais.
Que sur Twitter, il y a le hashtag SAVF1.
Ouais.
C'est à peu près tout.
Oui, on peut juste rappeler donc, que là, il y a deux semaines de vacances, pas d'émission mercredi prochain et mercredi d'après. On se retrouvera la semaine du 20, c'est-à-dire que ça sera certainement pas le mercredi exactement, le jour habituel de diffusion, mais on se retrouvera donc la semaine du 20 pour une émission spéciale quiz d'un peu plus de 2 heures, parce que généralement ça dure un peu plus de 2 heures, voilà, avec 4 invités, une émission qui s'annonce plutôt sympa, sincèrement, ne ratez pas, si tout se concrétise comme on le souhaite et si nos petits plans machiavéliques marchent bien, ça peut être sympa, voilà, et puis on se retrouvera la semaine juste avant le Grand Prix, donc ça va être aux alentours du 30 août pour le MAG, qui reviendra sur toutes les actus de ces prochaines semaines.
Ça risque d'être aussi vite que cette émission.
D'ailleurs, l'avantage de cette émission, c'est que je pense, vu la durée d'enregistrement, je pense que vous allez avoir exceptionnellement une émission quasiment
intégrale
dans sa version normale. Avec toutes les vannes pourries, toutes les histoires de viol, de les imitations de Ben, tout. Il y aura tout.
Allez, on n'oublie pas, l'AF1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com.
Et le SAV de l'AF1, c'est...
Le Ritz des podcasts.
C'est bien! Allez, attends, faut que je sorte un dernier truc sur les jeux. Faut que je sorte un dernier truc. Voyons, j'ai dit les couleurs, j'ai parlé de visage et... Ah ouais, vous savez que quand il faut porter réclamation pendant les jeux, faut filer du fric avec.
Oui, bah c'est partout, ça.
Ouais, mais ça a surpris des gens. Parce que c'est étonnant de voir un gars porter réclamation avec un billet de 100$ avec. C'est vrai.
Ça s'appelle pas porter réclamation, ça, c'est voilà, c'est...
Non, mais t'es obligé de donner de l'argent, c'est pour éviter, parce que normalement, en fait...
Mais
quand,
attends...
Quand tu fais réclamation après l'épreuve, c'est gratuit. Après que c'est eu lieu. Mais si tu le fais pendant, mais vraiment pendant, dans ce cas-là, il faut donner de l'argent. Et apparemment, en fonction des sports, c'est pas le même prix. C'est-à-dire qu'au taekwondo, c'est gratuit. En boxe, c'est 500$.
Mais est-ce que les gens qui portent les billets sont britanniques?
Ceux qui reçoivent ou ceux qui les donnent?
Ceux qui les donnent.
Ah, je crois que dans le cas où il y a eu la vidéo sur internet, c'était un japonais ou un chinois.
Oui, parce que les britanniques, c'est gratuit. Enfin, ils ont même pas besoin de porter réclamation.
Mais c'est... non, voyons, c'est bien. Ils sont qu'à tomber tout seuls, puis c'est bon. Allez, bonnes vacances à tous. Et ciao.
Et à l'année prochaine.
Salut.
Ciao.